L'alimentation cétogène serait-elle la clé pour devenir plus endurant et plus performant? Et comment la mettre en place? C'est le sujet du jour. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Olivier Maria, connu aussi sur les réseaux sous le nom de Low Carb Frenchie. Oui, ça annonce la couleur. Olivier est coureur marathonien en sandales aussi, sans manger, en moins de 3 heures. Oui, la vidéo a fait beaucoup de bruit sur YouTube au moment du marathon de Paris. Ultra cycliste, finisher de la Race Cross France 2 fois, et donc il est adepte et fin connaisseur de l'alimentation cétogène depuis plusieurs années. Et il est aussi l'auteur du livre « Performer en mode cétogène » sorti il y a quelques semaines et qui est vraiment très intéressant, au point de me faire douter sur mes croyances et m'amener aussi à me demander si je n'ai pas fait du low carb et même du cétogène sans m'en rendre compte à une époque. L'idée du cétogène est de changer de filière énergétique en passant des glucides aux lipides. En gros, on limite beaucoup les glucides et on mange des protéines, des lipides, sans oublier les légumes. Mais le faire n'est pas si évident. Donc nous en parler de cette transition, son intérêt, comment la faire, à quel moment de l'année, de la saison, comment la gérer et gérer aussi les repas avec nos proches et nos amis. Nous avons parlé de certains aliments, de certaines stratégies, parce que en fait Olivier est très clair dessus, hein, on a une baisse de capacité, de vitesse, de sport, d'endurance, etc. sur un premier temps, parce qu'il faut vraiment changer, on change vraiment le mode d'alimentation de son moteur, hein, tout simplement, donc il faut un temps d'adaptation, donc il nous explique le temps d'adaptation, et donc justement comment gérer ce temps d'adaptation, comment on gère les repas, comment on garde notre vie sociale aussi, nous donne une astuce sur les desserts par exemple, et puis finalement comment bénéficier de la liberté promise par une énergie illimitée selon Olivier. Je le répète, l'alimentation cétogène fait beaucoup parler, on a d'ailleurs évoqué ce sujet-là sur un peu la méconnaissance, un petit peu les problématiques que ça peut poser quand on a du mal à la mettre en place et aller jusqu'au bout de la logique, mais moi j'avoue que la discussion m'a fait douter parce que en fait en me rendant compte, en regardant mes anciennes assiettes, en regardant comment je m'entraîne, en lisant son livre, j'en suis venu me demander si je n'ai pas été cétogène ou au moins low carb pendant un certain temps. Vous allez voir justement qu'on a parlé des différentes échelles entre du cétogène, parce qu'il y a le cétogène vraiment très 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 strict, et puis il nous a donné aussi d'autres échelles qui permettent aussi de s'en rapprocher et de bénéficier de certains des bénéfices. Allez, c'est parti. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Olivier, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion et dans son livre, Olivier nous mentionne les noix, les oléagineux, les amandes, les purées d'oléagineux. Dans ses recettes, il mentionne aussi les graines de lin, les graines de chia. Nous parlons aussi de différentes farines qui sont compatibles avec une approche cétogène ou encore du café de lupin que je bois tous les jours. Vous pourrez acheter ces produits en ligne directement chez Coro, KORO.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, KORO.fr et utiliser le code HAPPYRUN5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Olivier. C'est parti.
Bonjour Olivier.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va super et toi?
Écoute, ça va bien parce qu'on va parler d'un sujet moi qui m'intéresse toujours. Alors, même si, je te l'ai pas dit juste avant quand on discutait juste avant d'enregistrer parce qu'il y a toujours 4-5 minutes, etc. J'ai ouvert ton bouquin d'une manière très perplexe au départ.
Ouais.
Vraiment très perplexe.
Okay.
Et je vais te raconter une anecdote, c'est que dans ma communauté du Hamster Running Club un jour, il y a quelqu'un qui a posé, on a fait un épisode sur les glucides et tout, tu vois, et dans Kilomètre 42. Et okay. Quelqu'un me dit « Ah, j'ai écouté attentivement l'épisode sur les glucides, etc. C'est super intéressant. » Mais je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui vient de faire le marathon en tong et sans manger ou je sais pas quoi, et qui fait un super temps et tout. Vous racontez que des conneries.
Ok.
J'ai dit « Bon, écoute, là, je dis « Ouais, bon, peut-être, faut regarder un petit peu, etc. » Et juste après, en fait, je regarde un petit peu, je m'intéresse un peu à ce que tu fais. Et puis, je vois ton bouquin qui débarque. Je dis « Ah, tiens. » Là, on a un bon moyen pour en discuter. Alors, j'exagère sur le côté en tong, mais c'est que tu cours en sandales.
Oui, je cours un petit peu en sandales, ouais.
Voilà,
on peut
moi
en
aussi.
Si tu
donc là-dessus, pour ça que la blague sur les tongs, je peux la faire parce que je sais ce que c'est que de courir en tong. Mais par contre, l'histoire du cétogène, après, donc, j'ai regardé ton bouquin, je suis tombé dedans. Et franchement, j'ai dit un truc, c'est que tu as failli me convaincre.
Ah ouais, écoute, trop bien. Te convaincre ou pas, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de... d'ouvrir un peu le débat, la curiosité, et puis de découvrir qu'il y a plusieurs voies nutritionnelles possibles en sport. Et l'idée, c'est pas forcément tous les sportifs et toutes les sportives se mettent au cétogène, mais je trouve ça intéressant qu'on découvre qu'il y a une autre voie pour les personnes notamment qui ont un peu des problèmes d'assimilation du sucre et qui ne le savent pas forcément et qui peuvent se dire ah bah tiens, il y a quelque chose à tenter, si je suis curieux et que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure sportive, pourquoi pas essayer. Donc c'est un peu ça que j'aime bien en parlant de régime cétogène et de sport. Et du coup tu me fait penser que j'aurais dû écouter ton épisode sur les glucides et les sucres avant et je ne l'ai pas fait.
Non, mais elle t'en fait pas parce non, que c'était. C'est vrai que la logique de l'analyse du corps humain, le fonctionnement global du corps, c'est de dire on fonctionne sur les glucides, on a des réserves et tout qui sont basées sur le glycogène, sur les glucides, on a des filières énergétiques. Bref, tout ça.
Ouais.
Tous ceux qui écoutent les épisodes, de toute façon, ils écoutent. Et je vais même te dire un truc, c'est que l'épisode. Avant la diffusion de l'épisode, avant de celui qu'on diffuse, on a justement parlé des capteurs de glucose, tu vois, des super sapiens,
okay. Ça on peut en parler,
du fonctionnement de la glycémie, de tous ces trucs-là. Donc le sujet, on l'a poncé dans un sens, dans l'autre, etc. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quand même bizarre, vous n'avez jamais fait un épisode sur le cétogène. J'ai dit c'est bizarre. Et pourtant, on a reçu Fabrice Kuhn, qui a fait la préface de ton livre, etc. Je l'ai même eu deux fois, je crois que je l'ai eu dans Kimetra en deux, en fait, j'ai eu dans Sport et Nutrition et tout. Donc, sur le coup, tu vois, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que finalement, ce sujet-là, on ne l'a pas abordé et qui pose beaucoup de questions. Alors, j'ai commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet pour taquiner un petit peu, pour voir un petit peu qu'on attaque sur le bon braquet. Mais d'abord, je vais te demander quand même de te présenter en quelques mots, parce que moi, j'ai le bouquin sous les yeux, donc j'ai vu ton parcours, je connais ton parcours, mais si tu étais capable de le résumer en. Je sais pas, attends, il s'est présenté en quatre lignes à l'arrière de ton bouquin.
Ah ouais.
Si t'es capable de le faire en aussi court, moi ça me va.
Écoute, je vais essayer. Je m'appelle Olivier Maria. J'ai 31 ans. Actuellement, j'habite à Lille. Et je suis passionné de sport depuis que j'ai mis le pied dans la course à pied c'était il y a 8 ans. C'était en 2015, il me semble. Et voilà, ça c'était quand j'étais étudiant. Parce qu'avant, j'avais fait 7-8 ans de foot, mais j'ai complètement lâché avec la vie étudiante, etc. Bref, depuis 8 ans, je me suis mis un peu sérieusement au sport et c'est vraiment devenu une grande partie de ma vie et de ma passion, une grande passion actuellement. J'ai commencé par la course à pied sur route. Après, j'habitais à Grenoble à l'époque, j'ai découvert le trail. Un an plus tard, j'ai déménagé à Lille et j'ai dû faire une croix sur le trail. À ce moment-là, j'ai un peu poncé le truc de performance en course à pied sur route. Quelques années plus tard, j'ai découvert le vélo et notamment le vélo longue distance ou très longue distance. On en a parlé une minute hors antenne. Mais voilà, pendant 2-3 ans, j'ai pas mal poncé ce format aussi qui consiste à faire des courses en gros de plusieurs jours en autonomie. Ça peut aller de 500 km à 3000 km en gros.
Et faut le dire, t'as fait la RAF, la Race Cross France.
Voilà, j'ai fait deux fois la Race Cross France et 2500 km en autonomie, on va dire, que j'ai fait en à peu près 7 jours. Donc ça fait quand même des grosses journées sur le vélo et c'est un format qui est assez passionnant. Et là, actuellement, ma pratique sportive, elle évolue un peu parce que j'essaye de rééquilibrer avec le vélo et la course à pied à la fois, parce que quand j'ai vraiment fait beaucoup de vélo, j'arrivais plus trop à être sérieux en course à pied parce que le vélo, ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc là, cette année, j'ai bien équilibré, je trouve, entre le vélo et la course à pied. Donc, je fais des semaines de vélo, je fais des courses de vélo. Mais à côté, j'ai fait une belle prépa marathon. C'était pour Paris et t'en as parlé en intro, il me semble. Et j'ai fait 2,58 pas en tongs, mais en sandales. Donc, c'était ma première... Ça fait longtemps que je guettais les 3 heures et j'ai enfin réussi, enfin moins de 3 heures. Et à côté, je me remets au trail, même si j'habite à Lille, mais là, je fais l'UTK Trem dans 16 jours, à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, un peu stressé parce que j'ai aucune expérience en trail et je me suis directement lancé dans la plus grosse distance. Et donc, voilà, je navigue un peu entre course à pied, trail, vélo, longue distance, que ce soit en gravel ou sur route. Et voilà, et puis j'en parle un peu sur mes réseaux et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant cet épisode.
Donc le cétogène, bon, t'es pas ton métier, t'es pas à l'origine, t'es pas diététicien ou je sais pas quoi,
non.
C'est quoi? Enfin, je te demande pas ton métier, mais c'est pas ton domaine à l'origine.
En fait, c'est pas mon domaine, sauf que je me permets d'en parler, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à en parler sur mes réseaux, à créer les comptes Low Carb Frenchy, c'était parce que j'étais en train de faire la transition, j'avais découvert ça, parce qu'à l'époque, je me prenais des hypoglycémies de l'espace en vélo, où je pense que tous les sportifs qui nous écoutent, une grande partie connaîtront ça, les hypoglycémies en vélo, en trail, à pied, qui te clouent au sol et qui te vident de ton énergie totalement. Donc en fait, moi, j'avais découvert ça à vélo. Je me retrouvais allongé au sol avec des étoiles dans les yeux, à plus savoir où j'habite et tout. Et en fait, j'étais un peu fataliste à me dire, c'est comme ça, quand on fait du sport, on a des hypoglycémies, c'est parce que j'ai pas assez mangé, j'aurais dû manger toutes les demi-heures, mes barres énergétiques faites maison et tout. Et à ce moment-là, tu vois, je tombe sur des livres. À l'époque, en fait, c'était il y a 7 ans, je pense. Ouais. 6-7 ans. Et en fait, à l'époque, déjà aujourd'hui, je trouve ça marrant que des gens te parlent du régime cétogène parce que c'est encore très peu répandu. Mais alors, il y a 7 ans, en fait, il n'y avait aucun livre qui existait sur le sujet. Personne n'en parlait tout. Et puis moi, au hasard, sur une ou deux pages d'un livre, j'entends parler de ça, j'entends parler de... du fait de sortir de ce principe que tu as évoqué qui est tout à fait pertinent, mais qui est le principe de manger du sucre et brûler du sucre pendant ses efforts sportifs. Donc tu vois, moi je tombe là-dessus alors que je me tape des hypoglycémies à vélo, que je dévalise des boulangeries, que je suis rincé à cause d'être saturé de sucre avec mes 3 canettes de soda et tout. Et je me dis, en fait c'est bizarre qu'on me parle d'une autre voie métabolique qui est d'utiliser les matières grasses comme source d'énergie. Et en fait du coup j'ai commencé vraiment comme ça. Et maintenant, 6 ans plus tard, ça a quand même pris de l'ampleur parce que, comme je te disais, à l'époque, personne n'en parlait. Moi, je me suis retrouvé un peu là-dedans. Je trouvais ça marrant de créer des comptes sur les réseaux sociaux pour juste en parler à mes potes, tu vois, à ma famille et tout. Et en fait, ça a pris de l'ampleur parce que je me suis retrouvé un peu, je le dis modestement, mais un peu en tête de file à parler de ça. Et en fait, je me permets d'en parler même si je suis pas nutritionniste, diététicien ou quoi. Parce que j'ai l'expérience, j'ai fait les erreurs quand j'ai commencé, je sais ce que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, donc, ça a quand même pris pas mal d'ampleur. Et sur mon site lowcarbfrenchy.com, j'ai écrit pas mal d'articles. Tu as évoqué le livre que je viens de sortir, qui est Performer en mode cétogène aux éditions Thierry Soucard, qui est sorti il y a un mois. Et donc voilà, maintenant j'en parle parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai fait les erreurs et je sais ce que ça m'a apporté. Par contre, je suis clair avec tout le monde et dès que des gens me contactent, c'est que... je suis pas nutritionniste et je veux surtout pas prendre ce rôle sans avoir les diplômes pour, parce que ça peut mener à des dérives qui peuvent être assez graves. Donc moi, si les gens me contactent en me disant j'ai telle maladie, tel problème, et moi je leur dis surtout pas t'as telle maladie, mange ça, fais ça et t'auras tel résultat. Moi, c'est pas du tout mon rôle, c'est hyper... je suis hyper clair là-dessus, je suis pas médecin. Par contre, je peux partager mon expérience et je sais que ça aide des sportives et des sportifs qui souhaitent découvrir une autre façon de s'alimenter, mais surtout pas en leur promettant de les sauver de telle maladie ou quoi, parce que c'est pas mon rôle.
Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que on voit beaucoup passer, il y a beaucoup de profils, etc. Tu sais, moi-même, je suis certifié en nutrition, mais je peux pas m'occuper des gens malades, en fait. Obésité morbide, etc. et tout. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on peut pas agir.
Ah, bien
mais c'est
sûr,
vrai que par contre, sur l'équilibre global, ça fait partie des choses et que, c'est vrai que, je te le dis très honnêtement, c'est vrai qu'au départ, parce que moi, j'ai eu des gens que j'accompagne des fois qui ont fait du cétogène, tu sais. Qui ont eu en fait l'effet un peu que tu décrivais, tu sais, d'avoir ces baisses d'énergie dans la journée, parce que ils l'ont pris d'une manière, tu sais, ils l'ont pris d'une manière, ils trouvent ce qu'on voit sur internet, des vidéos, des articles, des bouts de trucs, des fois ils traduisent un petit peu, ils ont un peu la fibre, etc. Et puis je pense notamment à une ou deux personnes que j'ai vues qui me disent ouais, mais moi je suis en cétogène, j'ai fait ça et tout, mais l'après-midi je me prends de ces coups de Trafalgar et tout, je suis totalement HS, etc. Donc c'est-à-dire exactement ce que toi tu décrivais avec quand tu mangeais du sucre et tout, et qu'eux ils ont en cétogène. Alors c'est parce qu'il y a un moment donné, il y a une espèce de déséquilibre qui se crée, qu'ils n'ont pas réussi à retrouver l'équilibre, en fait, on va dire ça globalement.
Bien sûr, En fait, Bah, je sais pas, parce que là, tu me dis juste une anecdote sur une personne, mais je pense que l'erreur la plus commune des gens qui veulent se lancer dans ces gènes, mais qui ont l'impression de pas y arriver, c'est que déjà, ils se sont pas assez renseignés, parce que c'est vrai que, comme tu dis, on lit un peu tout et son contraire, faut essayer de faire sa popote un peu tout seul, et c'est pas évident, et je pense que c'est important de partir de programmes un peu structurés ou de livres, parce que maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet. Tu parlais de Fabrice Kuhn, qui a été une grande référence pour moi, qui a signé ma préface, et je me suis permis d'écrire par la suite un livre pour essayer d'avoir un programme un peu structuré pour que les gens partent pas d'une page blanche sans savoir où aller. D'autant plus que vu que c'est une alimentation qui est un peu différente de ce qu'on entend sur tous les sites et tout, bah, si t'as envie de te lancer, tu vas avoir énormément de gens qui vont te dire, tu vas tomber sur des articles, ils vont te dire attention, c'est dangereux, faut surtout pas faire ça. Et là, bah, pour essayer de trouver des repères personnels, de se dire je lis un peu des avis contradictoires, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que c'est vrai que moi je suis conscient que on lance un peu un pavé dans la mare en parlant de cétogène, et que ça peut perdre des gens qui sont un peu dans des convictions de manger du sucre et tout. Moi, je vais leur dire, faut surtout pas manger du sucre, faut faire des marathons à jeun et tout. Enfin, c'est pas vraiment ce que je dis, mais tu vois, je suis conscient que ça peut perdre les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent au départ parce que déjà, ils peuvent penser que le cétogène, c'est un peu un régime miracle, un peu comme tous les régimes que tu fais genre 2 mois avant l'été pour un peu en mode bikini challenge ou genre... Genre t'as une course, un Ironman ou t'as un trail un peu long, tu te dis ça a l'air trop bien de brûler du gras, du coup 2 mois ou 1 mois avant mon trail, je passe en mode cétogène, je vais être un brûleur de gras. Et en fait non, il y a une grande erreur que beaucoup font, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a un principe qu'on appelle la cétoadaptation qui fait que c'est une période de transition vraiment cruciale. Il faut savoir que quand tu vas faire cette période de cétoadaptation, tes performances sportives vont baisser temporairement, ton énergie au quotidien. Donc la personne qui t'a dit qu'elle avait des coups de barre l'après-midi, c'est vraiment un symptôme de la cétoadaptation. Et en fait, si t'es pas conscient que ton organisme il a brûlé pendant 30 ans des glucides pour tirer son énergie, du jour au lendemain tu lui coupes sa source d'énergie privilégiée parce que tu lui donnes plus de glucides, et ben en fait c'est un changement métabolique qui est hyper profond en lui, tu vois. C'est pas juste comme je te disais, je fais le régime miracle pendant 2 semaines. C'est genre, il faut prendre le régime cétogène comme un changement métabolique qui est vraiment dans la source d'énergie que tu vas donner à ton corps, qui va changer, qui va passer des glucides aux lipides. Et si t'as pas compris que c'est un régime à long terme, qu'il faut faire des concessions parce qu'il faut changer son alimentation et qu'il faut passer une période de cétoadaptation qui va être, comme je te disais, qui va être une période où tu vas sentir que temporairement tu vas avoir une baisse d'énergie. Il faut vraiment adapter son entraînement sportif. Moi, je l'explique sur mon site internet, dans mon livre et tout, que c'est pas juste dans l'assiette. Il y a 50% dans l'assiette et 50% dans l'entraînement sportif. Donc, dans la période de cétoadaptation, pendant genre 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, il faut réduire l'intensité de ses efforts. Il faut arrêter les efforts intenses, genre fractionner. Faut pas espérer battre son record sur un marathon ou sur un 10 km. Et tout ça, c'est des choses à mettre en place. Il faut vraiment, vraiment bien, bien, bien se renseigner avant de se lancer. Pas se lancer aveuglément. Prends le temps qu'il faut. C'est pas un régime miracle. Ça prend du temps. Par contre, après, si vous savez pourquoi vous le faites, si les gens ont envie de limiter les hypoglycémies, d'avoir une énergie plus stable, une glycémie plus stable, même si tu manges moins de glucides, ce qui est un peu dur à comprendre. Là, il y a plein de bénéfices à en tirer, mais il faut vraiment pas faire n'importe quoi, bien s'entourer au début, bien se renseigner et voilà, ouais. Pas faire n'importe quoi, parce que c'est comme, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent le régime cétogène, mais qui viennent plutôt de sports genre boxe ou musculation ou quoi, où en fait ils font des sèches et qui disent mais de couper les glucides ça sert à rien, parce que moi j'ai plein de sportifs qui ont coupé les glucides pendant les 3 jours de sèche et qui étaient au bout de leur vie parce qu'ils n'arrivaient plus à faire leur entraînement en musculation. Mais si tu le prends comme un truc genre sur 3 jours, c'est clair que ça peut pas marcher. Donc voilà, c'est je pense que j'en ai dit beaucoup un peu sans structurer ma pensée et tout, mais j'espère que tu vois où
non,
je veux en venir.
Mais t'as raison de le rappeler que c'est l'importance du mode de vie aussi sur le long terme, que le long terme est important parce que on a parlé, tu vois, on a eu champion d'Europe de boxe, Jordi Weiss, dans un épisode, et qui okay, disait que lui, bien. Il est au poids. Enfin, il faut qu'il rentre dans le poids, mais il est au poids presque toute l'année, tu vois. Mm. C'est pas le gars qui va manger, qui va prendre beaucoup de poids, qui d'un coup, à 2 mois du combat, doit dire « Oh punaise, j'ai 10 kilos à perdre et je dois rentrer dans le truc ». Il avait expliqué qu'au quotidien, il était dans cette logique-là, etc. Et donc finalement, il est rentré assez facilement, même si bien sûr, il y a des efforts, etc., mais qu'il est rentré relativement facilement. Ce qui est aussi un mode de qui est un peu différent de ce qu'on voit aussi des fois dans les gros, dans ceux qui font de la muscu, qui prennent beaucoup de masse d'un coup, qui ensuite ont des grosses périodes de sèche, ou qu'on voit dans certains sports. Ouais. Parce que on a discuté avec des entraîneurs sur la lutte, par exemple, où là on a vraiment ces écarts qui sont vraiment très intenses, etc. Et là on n'est vraiment pas dans le même truc. C'est-à-dire que en plus tu le dis, il faut des semaines et des mois d'adaptation pour changer le. J'allais dire changer d'essence. Je crois que c'est toi qui tu prends
c'est exactement
plus,
ça.
Hein, le carburant, hein, c'est qu'on change de carburant.
Ah bah elle est trop bien cette image.
Du sans plomb au diesel ou je sais pas quoi, ou si, je sais pas si on passe de là à
l'autre. Non, mieux que ça.
Mieux que
on
ça.
On passe de. En fait, on a une voiture hybride et on passe de l'essence ou d'électricité ou l'inverse. C'est qu'une voiture, elle a deux réservoirs essence et électricité. Et nous, on a deux réservoirs, les matières grasses et les glucides. C'est tout. C'est ça, ouais. Et en fait, tant que t'as pas appris à utiliser tes lipides, t'es une voiture hybride mais qui a un réservoir d'essence de 10 kilos ou de 100 kilos et qui l'utilise jamais, ce qui est un peu dommage quoi.
Ouais.
Et en fait faut la clé pour changer de carburant.
Alors d'autant que tu le dis, en fait c'est qu'on a des réserves de graisse et d'énergie qui sont énormes. Le chiffre il est juste dingue en fait.
Ah ouais, bah si tu fais 50 kilos et que t'as 10% de matière grasse, bon c'est une image, hein, mais du coup t'as 5 kilos de matière grasse en toi. Donc ça fait des dizaines de milliers de calories tout ça. Et en fait, le grand principe qui explique les intérêts du régime cétogène, c'est que t'as tes réserves de sucre qui sont stockées dans le sang, dans le foie, dans les muscles et tout, elle est d'environ 2000 calories. Donc en fait c'est assez d'énergie pour courir 2-3 heures, tu vois. C'est le mur du marathon, typiquement.
Ouais.
À l'inverse, si je t'ai parlé de 5 kilos ou de 10 kilos en fonction de ta morphologie de matière grasse, bah ça, c'est 50, 100 000, 150 000 calories. Donc, tu comprends bien que tu passes d'un réservoir d'énergie qui fait 2000 calories et t'en as un autre qui fait 150 000 calories. Bah, si t'as envie de courir longtemps ou de faire du vélo longtemps, bah, autant utiliser le réservoir qui fait 150 000 calories.
Ouais.
Tout simplement.
Mais tu vois, il y a un truc qui est peut-être un peu contradictoire dans l'esprit des gens, en fait. C'est parce que quand on parle de lipides, de gras, de graisse, etc., on se dit que c'est tout l'inverse du sport, de l'alimentation sportive. Notamment, tu vois, moi, j'ai perdu 30 kilos dans ma vie. Donc, le gras, fou, tu le regardes d'un côté, tu dis, ce truc-là, trop gras et tout, faut l'enlever. Et puis tu te dis, ouais, mais en fait, c'est une super bonne source d'énergie, c'est super bon, etc. et tout. Alors que, c'est vrai, et puis on a par exemple qui met 42 déjà, de dire on diabolise un peu ce côté, le rôle des lipides, le rôle du gras, l'importance du gras, qu'il ne faut pas le négliger, qu'on en a besoin, que le corps en a besoin,
c'est
une question de survie de tout ça quoi. Mais en fait on a une mauvaise image, c'est associé à une mauvaise image ce truc-là. Et donc là d'un coup tu dis ouais mais en régime cétogène en fait, c'est la filière qu'on va privilégier. Et alors je dis pas que la filière sucrée soit bonne, hein, attention, ceux qui m'écoutent, je dis pas parce que moi j'ai carburé très longtemps en sucre et je sais que la filière sucre en intensité elle est pas très bonne non plus, mais c'est un peu l'image en fait de dire d'un coup on va se baser sur cette filière là alors que sur l'esprit santé le gras c'est pas la vie, tu vois, c'est en apparence en tout cas.
Ouais mais en fait c'est vachement intéressant que tu parles de ça, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas raconté ces histoires, mais comme tu dis, en fait, dans l'inconscient collectif, hein, dans l'imaginaire de énormément de gens, eh ben, on a associé longtemps les matières grasses à l'ennemi, au truc qui nous fait grossir, et en fait, quand tu connais rien et que tu réfléchis un peu à la nutrition, tu dis, bah, c'est logique, tu manges du gras, tu crées des matières grasses, tu crées du gras en toi et tu grossis. Et du coup, en fait, on a vraiment diabolisé les matières grasses et on a dit qu'il fallait manger des glucides pour l'énergie, etc. Et en fait, ça, c'est pas du tout anodin cette façon de penser, parce qu'en fait, si on s'intéresse à l'histoire de la nutrition, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a vraiment été construit, notamment par des marques industrielles qui avaient des intérêts à nous faire manger beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, parce que le sucre c'est pas cher, ça se conserve bien pour les produits emballés industriels et tout, contrairement aux matières grasses qui elles sont plus chères par exemple. Et en fait, tout ça dans l'histoire de la nutrition qui est apparu un peu aux États-Unis parce qu'ils sont toujours un peu en avance sur nous. Mais en fait, c'est quelque chose qui est parfaitement documenté. T'as des livres qui sont assez passionnants là-dessus, notamment aux éditions de Thierry Soucart, t'as les livres de Gary Taubes. T'en as un qui s'appelle Pourquoi on grossit, qui retrace l'histoire de la nutrition. Et là, je parle pas de la nutrition sportive, hein, je parle de la nutrition tout court qui nous ont fait, à partir des années 70 environ, fait diaboliser les lipides, qui nous ont fait manger des produits labellisés light, donc réduits en matière grasse. Et en fait, malheureusement, l'apparition des produits labellisés light, le fait que les gens mangent moins de matière grasse et malheureusement qui du coup ont augmenté leur consommation de sucre et de glucides, et ben tous les lobbies de la santé, les ministères de la santé des pays, les industriels et tout, nous ont fait manger moins de lipides et du coup plus de glucides et de sucre, comme je le disais. Mais malheureusement, ça a été le début d'une épidémie d'obésité vraiment hyper grave dans tous les pays, entre guillemets riches. Donc en fait, ça c'est assez fascinant de se remettre un peu dans l'histoire de la nutrition, comme je disais, par ces livres qui retracent vraiment tout ça. C'est hyper bien documenté. Et en fait, c'est pour ça, comme je te disais, que le fait que moi, quand j'arrivais au boulot avec mes assiettes, en rajoutant du beurre et de l'huile d'olive dans mes légumes sans trop compter, et ben forcément les réactions que j'avais en face de moi, et ben en fait elles sont tout à fait compréhensibles, naturelles, et parce que c'est ce qu'on a appris depuis le plus jeune âge, qu'en effet quand tu manges du poulet, ben faut pas manger la peau du poulet, etc. Faut manger de la crème ou des yaourts pour en matière grasse, du lait écrémé, tout ça. Donc en fait, ça c'est parfaitement normal qu'on pense ça. Et en fait, ce qu'on explique en régime cétogène, c'est que on réduit sa consommation de glucides et on augmente sa consommation de lipides pour compenser, parce que forcément, faut manger assez de calories. Et en fait, les glucides font grossir, et les sucres en particulier, qui sont une catégorie de glucides. Parce qu'en fait, quand tu manges des glucides, ton corps sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. Parce que quand tu manges des glucides, ta glycémie augmente, qui est ta quantité de sucre dans le sang. Ton corps, il aime pas ça, du coup, il sécrète l'insuline qui a pour but de faire redescendre la glycémie à un niveau normal, puisqu'elle a besoin d'être plus basse. Et en fait, l'insuline fait baisser ta glycémie en transformant les glucides et les sucres que tu as mangés en matière grasse, et c'est pour ça que tu prends du poids. À l'inverse, en régime cétogène, l'intérêt, c'est qu'on fait baisser ces niveaux d'insuline, et c'est pour ça que même en mangeant plus de matière grasse, on prend pas forcément de poids, voire il y a des personnes qui perdent du poids en mangeant plus de matière grasse. Donc c'est un peu une gymnastique de l'esprit qui est assez complexe et tout, mais en gros, voilà, on dit que on peut manger plus de matière grasse et pas grossir, voire perdre du poids. Et t'as des exemples de personnes, ça c'est parfaitement documenté et tout dans la science, qui perdent du poids de façon assez impressionnante en mangeant plus de gras et moins de glucides.
Ouais, ce qui est totalement hallucinant. Mais d'ailleurs, j'ai vu passer sur une courbe, il faudra que je retrouve le lien, mais c'est Fitness Miss qu'on a reçu dans un épisode il y a quelques temps, enfin il y a plusieurs mois maintenant, et qui a publié une courbe l'autre jour qui est hallucinante, qui montre qu'en fait, en 30 ans, l'obésité a augmenté, alors que les gens mangent moins de lipides. Et ça, vraiment, les courbes. Bah... Alors, c'est des chiffres anglais. Mange moins de lipides. Ingurgite moins de calories aussi.
Ça, les calories, parlons-en.
Alors, ils ingurgitent moins de calories. Mais bon, en fait, il y a un truc qui a aussi beaucoup joué aussi, et cette fameuse épidémie d'obésité, et on en a parlé je ne sais pas combien de fois dans les différents épisodes, etc. C'est que ce qui a beaucoup augmenté, c'est les voitures, c'est la sédentarité, c'est
le fait d'être
à l'arrêt, quoi, j'ai envie de dire, et de plus bouger.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que ça contribue un petit peu au mélange des genres, un petit peu entre les gens et tout, en disant, attends, d'un côté, il y a les calories, d'un côté, il y a les lipides, et on parle des glucides, ouais, on ouais. parle des sucres, on parle de ça, etc. Moi,
ouais.
l'autre jour, j'ai une question en me disant, mais tu comptais, il me dit, combien tu ingurgis de calories par jour? J'ai dit, j'en sais rien. Parce que moi, je les compte pas, mes calories. Enfin, je regarde des fois parce qu'en vélo, en plus, c'est hallucinant, les chiffres de calories quand on regarde.
Ouais, puis ton compteur, il te dit, t'as brûlé 4000 calories. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais.
Ouais, tu dis, j'ai brûlé des calories en pagaille, etc. Tu te dis,
je peux manger 4000 calories de glace, trop bien.
Ouais, puis quand tu regardes, alors si tu regardes les documentaires, tu sais, j'ai regardé des documentaires genre sur le Tour de France, il y en a un, c'est une chef aussi qui, j'en parle souvent là, qui nourrit des cyclistes, et, il faut qu'ils mangent 4000 calories par jour, etc. et tout. Et donc, il y a tout ce mélange là, en fait, là-dedans, tu vois, qui est compliqué. Et là, tu me dis, ouais, bah attends, hop, lipides. Bon.
Alors... En fait, ouais, et c'est intéressant que je te coupe deux secondes, mais tu parles de calories, j'en ai pas trop parlé parce que. Pour moi, c'est pas du tout un sujet, les calories. Et en fait, dans les livres dont je te parlais, faut vraiment lire Gary Taubes. Il avait créé un livre en anglais qui s'appelait Good Calories, Bad Calories. Et en fait, comme tu l'as évoqué, on réduit la nutrition à la question des calories. Sauf qu'en fait, on a juste dit aux gens, enfin, le grand principe qui est accepté par tout le monde et en fait qui est pas si évident que ça, c'est de dire, tu prends du poids parce que tu manges trop de calories par rapport à celles que tu dépenses. Si tu veux perdre du poids, ben il faut que tu dépenses plus de calories que t'en dépenses. Et en fait, ça c'est pas vraiment vrai. Et en fait, il y a un livre que Gary Taubes a écrit qui s'appelle Good Calories, Bad Calories, comme je te disais. Et en fait, dans ce livre, il explique que la question des calories, c'est pas du tout un sujet parce qu'on prend du poids pour des questions hormonales. Et en fait, à calories égales, si tu manges des produits industriels qui font augmenter ton insuline, eh ben, tu vas prendre plus de poids que si tu as une alimentation qui réduit ta sécrétion d'insuline, parce que c'est vraiment l'insuline qui est le premier facteur de poids. Même si, comme tu le disais, l'obésité, la prise de poids et tout, c'est ultra multifactoriel, t'as la nutrition, t'as la sédentarité, etc. Mais tu vois, dans ses livres, Gary Taubes, il explique, c'est hyper intéressant au niveau du sport, qu'en fait, si t'as envie de faire du sport et de dépenser 4000 calories par jour, et ben en fait, tu peux te restreindre et manger moins de calories à court terme, sauf qu'en fait, à long terme, et ben en fait, si tu dépenses plus de calories, ben tu vas manger plus, ce qui est assez logique. Et si tu essayes de te restreindre en calories, ben ton corps diminue son métabolisme. Ça veut dire qu'il va diminuer la quantité de calories qu'il va dépenser. Ça veut dire que tu vas avoir moins d'énergie, tu vas avoir froid, etc. Donc en fait, la prise et la dépense de calories, elle est parfaitement corrélée. Et tu peux pas dire, je réduis mes calories pour perdre du poids. Ça marche à court terme, mais ça marche pas à long terme. Et ça, c'est parfaitement documenté scientifiquement. Bon, parenthèse fermée sur tout ça, je pense, mais c'est assez passionnant, ouais.
Oui, et puis je pense que si, il y a des. On a beaucoup parlé de l'épuisement, etc., sur le fait que quand on fait beaucoup de sport, on dépense beaucoup d'énergie, qu'il faut arriver à reprendre cette énergie, à manger comme il faut, etc. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui est drôle, c'est que l'épisode que j'ai diffusé la semaine dernière par rapport à l'enregistrement, on en parlait justement, et c'est l'épisode avec Flo, donc vous pouvez le retrouver, qui, lui, par contre. Il est à l'inverse, en fait, de ce qu'on. C'est pour ça que je trouve ça drôle, en fait, l'enchaînement des épisodes, tu vois, exprès. Lui, en fait, il mangeait pas assez de glucides, tu vois. Et en fait, il s'est rendu compte que en mangeant plus de glucides, notamment en course, et puis même dans la vie globale, tu vois, il fait de l'ultra-trail, il s'entraîne 20 heures par semaine, que lui, ça lui a permis, tu vois, de sentir mieux, de ne plus avoir. Il avait été obligé d'abandonner dans une course, il avait des moments où il perd de lucidité, etc., tu vois. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant, c'est-à-dire que lui, c'était une solution qui a fonctionné pour lui aussi. Mais ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le cétogène n'aurait pas marché pour lui s'il n'a pas eu le temps d'adaptation. C'est ça qui est en fait, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, à part tester, on ne peut pas le savoir si finalement ça va être efficace, ton histoire là.
Ouais, mais en fait, et c'est intéressant l'exemple dont tu parles là, parce que c'est hyper important de comprendre que la nutrition, c'est quelque chose d'ultra individuel. Et ce qui va marcher pour quelqu'un va pas marcher pour d'autres. Là, tu prends l'exemple d'un sportif qui, en apparence, tolère hyper bien les glucides. Et moi, je suis le premier à dire que, qu'il y a des sportifs qui ont une capacité à tolérer les glucides qui est hyper impressionnante, qui est hyper bonne. Et de ce fait, qu'ils vont être capables de manger 500 grammes de glucides par jour, qui vont être capables de manger 80 ou 90 grammes de glucides par heure d'effort, sans aucun effet secondaire, avec une tolérance hyper bonne, sans avoir des retours de glycémie et des pics d'hypoglycémie, enfin des chutes de glycémie violentes et des hypoglycémies réactionnelles et tout. Et en fait, ça c'est clair que c'est hyper individuel. Et si des personnes font du sport depuis longtemps, font des efforts longs, mangent 90 grammes de glucides en course, ont jamais eu de fringales, ont jamais dû abandonner un Ironman parce qu'ils ont eu des problèmes digestifs, qui prennent pas de poids sur le long terme et tout, bah, j'ai envie de dire à ces gens-là, surtout ne changez rien, c'est que vous êtes tolérant aux glucides, votre sensibilité à l'insuline est bonne et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi je m'adresse plus aux sportives et aux sportifs. Bah, qui, même s'ils font du sport, qui se disent, bah, je dépense pas mal de calories, bah, ils prennent du poids un peu d'une année sur l'autre sans trop comprendre pourquoi. Ils ont des coups de pompe au milieu de la journée, ils ont des coups de pompe au milieu de leur sortie sportive, ils font des hypoglycémies un petit peu souvent. Et ça, c'est des signes de moins bonne capacité de l'insuline à réduire sa glycémie, donc un début de résistance à l'insuline, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, à ces personnes qui font des hypoglycémies souvent et tout, c'est à eux que je m'adresse, à leur dire, bah, il y a un intérêt à réduire votre consommation de glucides pendant l'effort, sans forcément être en mode régime cétogène strict, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais le régime cétogène, c'est l'alternative la plus stricte et la plus radicale, on va dire. Mais il y a plusieurs alternatives dans la réduction des glucides. Et sans rentrer trop dans les détails, parce que je pense que c'est pas l'objectif et tout, mais de ce podcast, mais en gros, en cétogène, on est à 25 grammes, à moins de 25 grammes de glucides par jour. Donc 25 grammes de glucides, c'est, je sais pas, c'est 300 grammes de légumes, c'est 50 grammes de riz, donc tu vois, c'est quand même pas beaucoup. Par contre, tu peux être en alternative low carb, ou quand t'es en low carb, bah, au lieu de manger 400, 500 grammes de glucides par jour, tu passes à 100, 150. Donc tu vois, tu divises déjà ta consommation de glucides par 2 ou 3, et en fait, tu manges en gros. Tu peux manger des féculents, mais des petites portions, peut-être un repas sur deux. Tu peux déjà être dans une approche de faire dans la semaine, faire même peut-être tous les jours un repas sur deux pauvre en glucides. Donc juste protéines, légumes, matières grasses. Donc voilà, en fait, il y a plein d'alternatives en fonction des objectifs sportifs de chacun, surtout des objectifs de santé de chacun, parce que moi, je suis plus dans une optique d'alimentation pour la performance sportive, mais je suis dans une optique d'alimentation santé en général dans la vie de tous les jours, et qui après donne des possibilités pour la performance sportive, mais je dissocie plus du tout les deux. Donc voilà, il y a plein d'alternatives plus ou moins strictes, plus ou moins radicales dans la consommation de glucides et tout, mais ça c'est vraiment en fonction des objectifs de chacun.
Non, mais parce qu'après c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, de toute façon on voit toujours les extrémistes, il y a toujours le truc un peu extrême en disant, parce que moi quand tu me dis 25 grammes là, je
en train de... tu calcules dans ta tête,
ce matin j'en ai pris déjà 3 fois plus, et encore, même sans calculer, tu vois, c'est vraiment à la louche, hein, que je me suis dit, j'ai dit le truc, hop, j'ai dit ouais punaise, ouais, etc. Ouais. Je me dis bon, comment faire, mais tu vois, dans le même temps j'ai des gens quand même qui ont des questions et en me disant, ouais, moi je mange trop de sucre, j'ai des compulsions, j'ai envie de sucre tout le temps, ouais. Je mange beaucoup de sucre, j'ai envie de bonbons, j'ai envie de choses comme ça. Bon, les envies de sucre, c'est aussi multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui jouent dedans, parce que le sommeil peut jouer parce que plein de choses peuvent jouer dedans.
Le stress, ouais.
Le stress et tout. Et la semaine dernière, donc dans l'épisode précédent, justement, avec Côte Bazin, on parle de ça, de cette histoire aussi du stress par rapport au lien avec la glycémie, comment tout ça influence l'un l'autre. Mais par contre, l'habitude de manger sucré, c'est aussi,
ouais, y a ça aussi
un élément où moi c'est pour ça que je suis pas très soda light,
ouais.
Parce que autant
ça peut relancer les pulsions,
tu manges beaucoup de sucre, enfin t'as quand même ce goût du sucre en fait qui garde cette habitude, etc. Tu vois, moi je dis tant qu'à boire un coca, moi je bois un coca qui a du sucre, mais j'en bois qu'un au lieu d'en boire 10 qui a que du sucré. Et parce que ce goût du sucre, cette appétence du sucre, et ça a été montré, hein, il y a eu des études qui ont montré que les souris préfèrent le sucre à la cocaïne, quand tu manges sucré et gras, quand t'as l'habitude de manger sucré et gras,
mauvais combo.
Le simple fait de te montrer un truc sucré, déjà, ça te, t'es beaucoup plus sensible, t'as beaucoup plus envie d'acheter et tu résistes beaucoup moins. Donc, on le sait qu'il y a ça aussi. Et c'est vrai que, tu vois, tu te dis, bon, attends, si j'ai un moyen de réduire un peu le sucre, mais pas totalement, parce que quand même, c'est quand même bon, les glucides, tu vois, les féculents, un peu le sucre, etc.
Ouais.
Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des échelles, en fait. Parce que sinon, les gens, ils voient tout le truc cétogène en disant, oh, punaise, je peux plus manger de ça. Ils ont juste envie de t'attraper sur un piqué, là, de te mettre dans la flotte comme Koh-Lanta, de dire voir combien de temps tu tiens. Fait, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais, c'est clair. Bah, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'en nutrition, en sport ou dans la vie de tous les jours, on est dans une société où on a tendance à catégoriser et à vraiment être trop manichéen dans nos façons de penser, à dire bah, c'est soit blanc, soit noir, soit oui, soit non, soit cétogène, zéro sucre, zéro glucide, soit. Zéro lipide, que des sucres et que des glucides. Et en fait, moi, j'étais un peu là-dedans, mais avec les années qui passent, tu vois, j'apprends à être beaucoup plus nuancé. Mmh. Et comme tu le dis, je pense qu'il faut essayer de comprendre que c'est vraiment, il faut apporter de la nuance dans tout ça. Il y a une palette entre le blanc et le noir de centaines de gris différents avant d'arriver d'une extrême à l'autre. Bon, par contre, d'un point de vue perso, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des gens qui sont un peu dans le côté pas extrême mais dans le côté radical, parce qu'il y a toujours à apprendre des personnes un peu radicales. Par contre, tu vois, si je peux témoigner de mon expérience personnelle, j'ai été très radical en cétogène strict au début, parce que je pense que c'est important d'être là-dedans assez strict au début. Par contre, je suis beaucoup beaucoup plus souple maintenant, et maintenant je suis plus en mode low carb. Ça veut dire que mes repas classiques, c'est cétogène un peu strict, genre pas de féculents, légumes, protéines. Par contre, si on prend toute ma semaine de repas, je suis plus en mode low carb, assez souple, parce qu'avec les années, en fait, on s'aperçoit que le corps, il peut passer de l'un à l'autre si on tolère un minimum les sucres. Donc tu vois, je veux dire, l'été je mange des fruits, je m'en prive pas, je me prive pas de bonnes choses, parce que comme tu le dis, bah on vit pas dans une grotte, du coup forcément on a des tentations par-ci par-là. Bah après, faut pas en abuser non plus. Mais je pense que c'est hyper important de dire qu'il faut apporter de la nuance. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont un intérêt à passer de 400 grammes de glucides et du sucre un peu à tous les goûters, à se dire, bah, la première étape, c'est que je coupe au maximum les sucres rapides. Donc, tu parlais des sodas. Moi, avant d'être en mode cétogène, j'avais vu les reportages sur le sucre sur Arte. Je me suis dit, OK, on essaye d'arrêter le sucre blanc. Donc, j'arrête les sodas. Ça, c'est le truc le plus simple. Donc, à la place des sodas, tu prends un Perrier avec une tranche de citron, tu prends un thé glacé avec des feuilles de menthe ou des trucs comme ça, tu vois, c'est hyper bon. Après, t'essayes de à la place d'avoir des barres céréales ou des M&M's à la pause au boulot à 16h, ben, tu te dis, OK, je mange une poignée d'amandes et quelques fraises ou quelques framboises. Donc, déjà, avant de parler de cétogène, hyper strict et tout, je pense qu'il y a un intérêt à avoir des bonnes habitudes au quotidien, de dire bah, le sucre blanc, il y a un consensus là-dessus que c'est hyper mauvais pour la santé. Ça amène l'obésité et tout. Il faut pas perdre aussi l'esprit que les industriels sont pas bêtes. Leur objectif, c'est de faire de l'argent sur notre dos et de vendre des produits qui sont hyper addictifs. Comme tu dis, bah ouais, tu passes au boulot, tu passes devant la machine qui te vend les produits industriels. Bah, il y a plein de couleurs. Les Kellogg's pour les enfants, il y a des petits animaux tout gentils. Enfin voilà, tout ça, c'est dans une... Tout ça, c'est dans le but de créer des produits addictifs qui ont des couleurs qui n'existent pas dans la nature. Bon, à part les fraises ou les framboises qui sont rouges, mais globalement, je veux dire, les céréales, etc. Faut pas se leurrer, c'est fait pour nous rendre addicts. Et l'addiction au sucre, c'est un vrai sujet. Donc voilà, déjà, sans parler de cétogène, d'avoir des bonnes habitudes au quotidien, de limiter les sucres au maximum, de manger des petits carrés de fromage, des oléagineux au goûter. On parlait du petit déjeuner, mais d'essayer d'avoir des petits déjeuners plus pauvres en sucre, parce que c'est vraiment le repas de la journée typiquement qui est riche en sucre sans forcément s'en apercevoir. Mais tu vois, tu manges, t'as l'impression de bien manger, mais tu manges un bol de flocons d'avoine, un jus d'orange, un café avec un petit carré de sucre, des raisins secs, du miel, etc. Bah finalement, t'as mangé que des produits entre guillemets naturels, mais ça fait une quantité de sucre qui est assez importante. Donc déjà, tu peux manger plus de protéines au petit déjeuner, un petit peu moins de sucre, etc. Donc voilà, ça c'est des bonnes habitudes au quotidien qui sont déjà hyper positives pour la santé.
Mais tu sais que, et alors je sais plus si c'est ton bouquin ou ton site, il y a un moment donné, tu donnes un exemple
Ouais.
sur la capacité à courir en disant bah, quand tu es en cétose, tu arrives à faire ça, tu peux faire ça, etc. Et tout. Et j'ai regardé,
Ouais.
je me suis dit, mais à une époque, ça se trouve. Alors je dis pas que j'étais, parce que c'est pas vrai, tu vois, j'étais pas dans
Ouais.
l'échelle, etc. Mais par contre, il y a des exemples que tu donnes. Je me suis dit, mais attends, moi je le faisais ça. Et en fait, et tous les exemples que tu
Ouais.
donnes, et tu vois, par exemple, je suis sur ta page 65, mes aliments recommandés pendant
Ouais.
le sport. Noix, oléagineux, amandes. Ça, c'est mon goûter. Purée de
Ouais,
l'agineux,
parfait.
ouais. Fromage, ok. Chocolat, plus de 85%, ok. Poisson, conserve, thon, sardine, moi, c'est le maquereau. Œuf dur, ok.
Ouais.
Alors, moi, juste le truc, c'est la charcuterie, j'aime pas ça, mais je suis pas très saucisson, etc. Mais je fais un petit clin d'œil à Mehdi qui adore le saucisson. Et je fais un petit clin
Ouais.
d'œil aussi à d'anciens épisodes d'invités qui nous avaient dit que, notamment pour lutter contre le froid, manger des saucissons très gras. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que quand on va dans les
Ouais.
certaines alimentations, par exemple, j'ai cité que le saucisson norvégien était le plus gras au monde. Et en fait, finalement, c'est que de la protéine
Ouais.
et du gras pour résister au froid, pour apporter de l'énergie, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant dans les pays nordiques pour lutter contre le froid,
Ah bah
justement,
ouais.
où ils vont
Ouais,
pas
les
sur du
inuits et tout,
sucre, ils
ouais.
vont aller sur du gras et de la protéine. On en parlait aussi sur les expéditions.
Ouais.
Alors là, il faut aller voir sur les anciens épisodes, on avait parlé des expéditions, par exemple, dans le grand froid, l'Everest et compagnie,
Ah
où ils
ouais,
mangent
bien
aussi des
sûr.
trucs, la viande séchée, tu vois, des choses comme ça. Donc on est sur cette logique-là, en fait, de trucs. Et je me disais, mais attends, mais tout ce qu'ils racontent, en fait, je dis, mais c'est ce que je fais.
Ouais.
Sauf que, bon, moi,
Ah
mon
ouais.
truc, bon, les M&M's, c'est mon petit péché mignon, je veux le dire, hein, quand même.
Si tu les manges en course, c'est mieux que si tu les manges dans ton canapé.
Ouais, mais j'aime bien les pâtes aussi.
Ouais.
Mais en fait, des fois, je regarde les trucs, je dis, mais attends, en fait, je le fais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, le premier niveau. Je dis pas, tu vois, d'aller jusqu'au bout du bout du bout, parce que quand tu me dis l'échelle, les 25 grammes par jour de glucides, c'est hardos quand même. Mais il y a plein de trucs, tu vois, sur, par exemple, ta pyramide, là, ta semaine de menu, quand on regarde les trucs. Je dis, mais en fait, c'est ce que moi, je préconise aussi, tu vois.
Ah bah c'est hyper simple ouais.
C'est ce que je fais,
En fait,
c'est presque simple ton histoire en fait.
bah c'est hyper simple. Alors un point avant de parler de ça, mais sur la charcuterie, je l'ai mis dans mon livre et j'ai eu quelques commentaires là-dessus parce que si on regarde dans le meilleur des mondes, un truc un peu naturel, bio, etc. La charcuterie, si on considère que c'est juste de la viande séchée et des matières grasses, bah, ça peut être très intéressant en régime cétogène. Par contre, faut pas perdre d'esprit que 99% de la charcuterie qu'on trouve actuellement, c'est plein de cochonneries. Il y a du lactose, il y a
Et du
plein
sucre.
de du il y a il y, ouais, y a du sucre, ouais, il y a plein de cochonneries. C'est bourré de cochonneries la charcuterie industrielle. Donc voilà, ça c'est un point. Faut faire attention à ça et je suis le premier à dire que faut pas en abuser non plus. Ou faut vraiment regarder sélectionner ses bonnes sources de charcuterie et tout. Mais par contre, au-delà de ça, comme tu le disais, en fait, les repas cétogènes, c'est des repas hyper simples. Quand je te parlais de légumes protéines, en fait, c'est vraiment ça. Il faut bien comprendre que l'assiette cétogène, c'est selon moi, de mon point de vue, d'une alimentation qui est avant tout faite de produits frais, naturels, de saison, locaux, etc. Et ben, l'assiette cétogène, c'est hyper simple. C'est genre des légumes crus ou cuits, donc des courgettes, de la salade, des tomates, des poivrons, etc. Une source de protéines, donc ça, si on mange de la viande, c'est de la viande, mais ça peut être aussi des œufs, du poisson, voilà. Et ça, arrosé de matières grasses, donc huile d'olive, beurre, et à côté, un petit peu de fromage pour finir son repas, du chocolat, des oléagineux, des yaourts, si on tolère un peu les produits laitiers. Donc en fait, si je te dis ça, on s'aperçoit que le régime cétogène, c'est hyper simple. Qu'au resto, bah, tu trouves dans tous les restos, même des restos italiens, des alternatives cétogènes. D'ailleurs, dans les restos un petit peu huppés, tu t'aperçois que les féculents, c'est plus la base de l'assiette. Dans les restos un peu chic, c'est vraiment des légumes bien travaillés avec une belle source de protéines et une bonne sauce. Donc en fait, le régime cétogène, c'est ça, c'est hyper simple. Et puis en fait, c'est vraiment la transition, le début qui est un peu dur quand t'as l'habitude que les féculents c'est la base de ton assiette. Mais au bout de quelques mois, bah, tu t'aperçois même plus que tu manges cétogène. tu te régales avec des bonnes salades, plein de couleurs, avec plein de saveurs, des bonnes sauces avec plein d'épices. Tu te nies pas trop matière grasse, du coup t'as des assiettes qui sont vraiment savoureuses parce que t'as un petit beurre avec du basilic qui est sur tes légumes, qui fond. Enfin, du coup, tu peux vraiment vraiment te régaler et manger varié et manger plein de saveurs.
J'ai d'autres questions parce que quand même, bon, on a un pays. Alors, j'en ai deux. Alors attends, parce que c'est moi. Alors, j'ai mon étagère de bouquins, tu vois, et chez les mêmes éditeurs que toi et tout. Et je regarde, j'ai un bouquin sur le pain. Réhabilitons le pain. Alors.
Ouais, trop bien.
Oui, mais le pain, t'en fais quoi?
Bah, du coup, le pain, le pain, t'oublies. C'est dur si c'est vraiment ton habitude. Moi, j'étais pas trop baguette au petit déjeuner, mais je sais qu'il y en a qui ont l'habitude d'aller à la boulangerie tous les matins et tout. Bon, c'est clair qu'il faut savoir pourquoi on le fait et il faut essayer d'oublier quelques habitudes au quotidien. Après, tu peux aussi avoir des alternatives pauvres en glucides, genre où t'as des recettes de pain cétogène ou dans le commerce, tu peux acheter du pain cétogène, genre un peu en tranche ou des trucs comme ça. Moi, j'ai une super recette sur mon site internet de crackers cétogènes à base de graines. En fait, ça fait des trucs un peu croustillants qui sont hyper bons à l'apéro avec uniquement des graines là-dedans. Tu tartines de beurre ou de fromage. Donc oui, bah voilà, faut faire des concessions. Le pain, c'en est une. Après, si tu tolères bien et que t'as envie d'avoir une approche un peu souple et que t'as envie d'aller à la boulangerie week-end, bah écoute, va à la boulangerie week-end. Mais c'est juste que ça va plus être la base de ton alimentation, le pain et les pâtes avec le pain pour saucer la sauce des pâtes, tu vois. Bon.
Non, voilà, non, ça c'est interdit. Non, non, mais ça c'est interdit. De toute façon, c'est interdit parce que on a deux sources de féculents et déjà, donc on va en prendre qu'une. Hein, c'est
faut
soit
pas
les pâtes,
mélanger.
Soit les pains. Déjà, donc déjà, ouais, arrêtons. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que après, tu vois, moi je prends que du pain au levain maintenant. Tu vois, j'ai une boulangerie au levain, etc. Donc je me dis bon, après, ça limite un peu les trucs et autres. Mais tu vois, on a ces habitudes là et puis c'est bien bon. Tu vois, il y a des trucs qu'on peut tartiner et puis. Bon, ça c'est compliqué. Mais après j'ai un deuxième truc parce que tu dis sur les fameuses protéines en fait. Alors bon, dans le cas où tu vois là, je t'ai cité les œufs, on a dit on peut manger du poisson, etc. Bon, là ça va. Mais si on passe végétarien et si encore plus on passe vegan totalement, on arrive sur des sources de protéines. On va passer sur la protéine végétale. Et la protéine végétale, on va se retrouver avec des mélanges où faut mélanger des légumineuses et des céréales.
Et des céréales, ouais.
Et là on fait comment?
Alors bah oui, comme tu dis, pour avoir des protéines complètes avec tous les acides aminés, il faut mélanger légumineuses et céréales. Alors pour être clair avec toi, le régime cétogène c'est contraignant parce que tu coupes un groupe d'aliments. Le régime végétarien c'est contraignant parce que tu coupes un groupe d'aliments. Donc forcément, si tu fais la multiplication de l'un et de l'autre, bah alors là, t'as un problème parce que tu peux manger encore moins de choses. Et donc forcément, je vais être clair avec tout le monde, le régime cétogène végétarien, c'est pas impossible, mais c'est clairement plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc en source de protéines, bah, si tu manges des œufs, tu peux manger des œufs parce que c'est la source de protéines la plus complète, c'est vraiment idéal comme source de protéines. Tu peux trouver des protéines dans les oléagineux, tu peux trouver des protéines dans le fromage si t'en manges. Et forcément les légumineuses, donc déjà les légumineuses seules, c'est pas riche en glucides, mais il y a quand même des glucides. Je sais pas s'il y en a genre 20-30%, donc en cétogène strict, on coupe les légumineuses, en low carb un petit peu plus souple, on peut en manger.
Ouais.
Après, d'un point de vue de l'assimilation, je pense que c'est moins bon que les œufs parce que t'as pas tous les acides aminés et tout. Mais voilà, si t'es hyper motivé, que t'as envie de faire un régime cétogène sans viande, tu peux y arriver. Par contre, si tu manges pas d'œufs, bah là, je vais être clair avec toi, ça va être plus compliqué. Tu peux manger du tofu, tu peux manger des oléagineux, ça va être plus compliqué. Se gaver de fromage, bon, c'est pas forcément une idée, genre remplacer ses 200 grammes de steak par 200 grammes de fromage dans ton assiette. C'est pas forcément une bonne idée parce que t'as des problèmes avec le lactose, la caséine, ça peut être assez inflammatoire aussi. Donc, t'as des gens qui tolèrent hyper bien tout ça, qui peuvent s'en gaver tout. Mais bon, globalement, c'est moins recommandé et tout. Donc voilà. Après, le régime cétogène vegan, bon, là, je veux pas m'avancer sur le sujet, mais D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que le régime vegan, c'est quand même déjà un petit peu compliqué en société. Mais après, c'est intéressant parce que tout ça, ça montre que changer d'alimentation pour quelque chose de restrictif, c'est, ça marche si t'as des convictions hyper fortes. Et à partir du moment où t'as les convictions, bah, tu y arrives. Mais du coup, bon, bref, parenthèse refermée. Le vegan, c'est compliqué, je pense. Vegan cétogène, waouh. Bon, j'ai écrit un article sur mon site internet sur le cétogène végétarien. Ouais. Pour expliquer que ça marche, pour expliquer comment faire et tout. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent aller le voir. Et je l'ai écrit parce que tu me poses la question et je reçois énormément la question. Du coup, il fallait que j'explique un petit peu. Donc voilà, pas faisable, mais forcément, deux fois plus contraignant.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu vois, j'ai fait quelques recherches en même temps qu'on discutait là et tout. Ouais. Le VG Céto comme régime. Ouais. Alors, il y a des recettes, hein, mais c'est vrai que ouais. Franchement, œufs, fromage, tofu, tempeh, seitan, algues, farine de lupin.
Ah oui,
farine
c'est
de lupin, ça, c'est un truc.
Ah oui, bah, la farine de lupin, on n'en a pas parlé. Voilà, en fait, en gros, dans les farines, ouais, dans les farines, t'as des alternatives en utilisant des farines alternatives, du coup, pauvres en glucides pour faire genre de la pâtisserie, du pain, des pâtes. Je fais des pizzas cétogènes hyper bonnes. Et les plus connues, c'est amandes et coco. Mais j'ai découvert il y a pas mal de temps la farine de lupin qui est, ce qui est bien, c'est qu'elle est locale. Mmh. Elle est française, elle est pas chère. Et elle est riche en protéines. Je sais plus si.
39.
Je peux pas dire de bêtises. 39%. Ouais, ouais, c'est ça, j'étais dans les 40. Ouais, ouais. Du coup, ouais, voilà. Ça
tu vois, mais moi je me fais en enregistrant, je bois un café de lupin. Non, mais il y a rien dedans, franchement. Je dis, acheter, c'est un sponsor du podcast en plus. Mais café de lupin, vois, c'est pas mal. Tu t'aurais filé.
Ah, mais je suis hyper curieux.
Je mets dans ma.
C'est un peu comme la chicorée, quoi.
Ouais, ouais, mais je mets dans ma French press, tu sais, pof, pareil.
Trop bien.
Je crois même que tu peux mettre dans des capsules, etc. Alors, ceux qui aiment vraiment le café, hein, je le dis. Ne me dites pas que ça ressemble, que c'est du café, mais quand même, ouais. ça passe pas mal, tu vois, et tout. Et c'est vrai que j'ai regardé à l'arrière du paquet, et effectivement, le lupin, c'est 39% de protéines, donc c'est quand même juste, juste énorme. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre après farine de pépins de courge, ça, j'ai jamais goûté, je sais pas ce que ça vaut. Farine de soja aussi, farine de chanvre.
Ouais, bah après, je suis pas trop expert parce que je me suis pas trop intéressé à ça, mais en effet. Toutes les farines à base d'oléagineux, ça passe, mais des fois, je vois ça dans les magasins bio, genre farine de graines de quoi ? De graines de courge. Enfin, tu vois le truc à 50 euros le kilo, du coup, bon, je vois ça, je me dis, bon,
ouais, alors graines de courge, on est dans de la plante, pure végétale.
Ouais, ouais.
Bah, farine de pépins de courge, franchement.
Ouais. Oh non, mais t'imagines le nombre de courges qu'il faut pour avoir assez de pépins.
C'est très bon à grignoter, je trouve.
Ouais, voilà, ouais, carrément. Ben ça, en apéro, tu vois, c'est des bonnes alternatives.
C'est un peu compliqué.
Ou à la place de picorer des petits biscuits à base de farine, genre des trucs et tout, et ben tu picores des oléagineux ou des graines comme graines de tournesol, graines de courge, un petit peu avec des épices et tout. Donc, ouais, ça, c'est hyper bien, hyper bon. Ouais.
Ouais. Et ouais, mais tu vois, c'est là où après, moi, ça vient rentrer après dans mes trucs que je faisais. Parce que moi, tu vois, genre les chips, je les ai remplacés par les pop-corns de pois chiches. Mais le problème du pois chiche.
Ouais, trop bien.
Ouais, bah ouais, le problème du pois chiche, c'est 61% de glucides, quoi. Donc, faut pas manger trop parce qu'on fait vite exploser ton.
Sûr.
Ouais, ouais, je suis en train de regarder. Attends, ouais. 61% de glucides.
Ouais, mais après, tu vois, quand. Là, en fait, on parle de quantité de pois chiches secs. Et si tu manges 100% pois chiche, sauf que tes pois chiches, tu les fais tremper, ou alors si tu utilises de la farine pois chiche, tu vas la mélanger à de l'eau, à d'autres ingrédients. Et en fait, du coup, c'est intéressant de voir la quantité de glucides sur ta recette complète, qui peut largement diminuer. Tu vois, rien que le fait de faire tremper les pois chiches, et bah, une fois mouillé, bah, ta quantité de glucides, elle est divisée par deux. Tu rajoutes de l'huile d'olive, ça fait baisser la charge glycémique et tout. Et au final, si t'as envie de manger, tu vois, moi au début, je m'étais interdit de manger du houmous et tout. Bah là, je m'aperçois que le houmous, c'est hyper bon et c'est hyper agréable à l'apéro. Et je me prive plus du tout de manger du houmous dans une optique un peu plus, un petit peu plus souple, tu vois.
Ouais, donc, et tu me rassures parce que j'en ai dans mon frigo du houmous.
Trop
bien. Mais bon, sauf que moi, je le mets sur du pain. Mais bon. Mais tu vois, par contre, il y a des trucs un peu surprenants, tu vois. Par exemple, moi, il y a un truc et les gens me disent mais que je raconte n'importe quoi et tout, tu vois. J'avais fait des vidéos un jour en disant manger du popcorn. Tu sais, où j'ai dit aux gens manger du popcorn parce que popcorn, on se rend pas compte. Mais déjà, ça prend. Tu mets 20 grammes de maïs, ça fait un truc énorme. Tu mets dessus des petites épices, du cumin, etc. ça prend pas, c'est bon et tout, tu vois. Tu es obligé de passer du commerce, tu mets plein de sucre. Mais en fait, le popcorn, ouais. Tu vois, le maïs, je viens de regarder, il y a que 19 grammes de glucides dans du maïs. Donc en fait, ouais. Le pire, c'est, tu vois, moi, c'est genre de conneries comme ça, là, ouais, ouais. Le truc. Je dis, mais déjà, même, tu vois, et quand je fais maïs glucides, une recherche au-dessus, c'est marqué keto. Google, il m'a, ouais. Fait le lien, tu vois. Alors, a priori, il y a ouais, un ouais. Espèce de truc où je dois. Mais je trouve que c'est intéressant de regarder certains aliments, tu vois, de dire, effectivement, on peut facilement remplacer des. Bon, on prend les chips, parce que pour l'apéro, ouais. Là, en plus, tout le monde a un barbecue et tout, l'été, etc. Moi, je disais, remplacer les chips par du maïs sur lequel on met du cumin, des trucs comme ça, des pois chiches, tu vois, sur lequel on met des choses comme ça. Alors, le pois chiche, comme tu l'as dit, effectivement, on peut baisser. Le houmous, bon, c'est vrai que c'est une source intéressante, mais tu vois, mon astuce du maïs, bah, je me rends compte qu'en fait.
Ouais, elle ouais rentre, hyper intéressant, ouais.
Elle rentre dedans, ton truc.
Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis, le fait que ça te fait un gros volume, que c'est un peu ludique à manger, du coup, tu manges ça, enfin, ça prend du temps à manger et tout. Mais ouais, c'est hyper intéressant de reconsidérer certains aliments qu'on a complètement oubliés. Et là, tu parlais des macronutriments. Donc, en fait, moi, je conseille au début du régime cétogène de bien regarder les macronutriments de chaque chose qu'on va manger pour un peu avoir des repères. Quitte à, après, arrêter de compter ses macros, ses calories et tout. Parce que bon, ouais, c'est un peu contraignant. C'est chiant et c'est clair. Donc, moi, je suis vraiment dans cette approche-là de, tu vois, moi, je compte pas du tout les macros. Je les fais un peu, genre, un mois parce qu'au bout d'un moment, enfin, une fois que t'as les repères dans l'assiette de dire, OK, je viens de couper une ou deux courgettes, je sais visuellement que ça fait tel volume, que ça fait à peu près tant de glucides. Bon, mais après, une fois que tu sais ça, c'est bon, quoi. Mais ouais, pas mal, l'astuce des pop-corn, finalement, pas sucré, salé plutôt au ciné.
Ouais, non, mais c'est salé, des pop-corn salés, c'est super bon. Et alors, tu vois, moi, il y a un truc que j'adore, c'est la patate douce. Alors, la patate douce, je me suis dit, j'ai pas droit à la patate douce, etc. Bon, je vais regarder, c'est pas si mauvais que ça, la patate douce. Enfin, faut pas manger trop, je pense.
Alors, je suis pas expert, mais c'est des tubercules. En cétostrique, c'est sûr que non. En low carb, je sais pas trop si. Honnêtement, je pense que la patate douce, on vend ça un peu comme un produit miracle, mais. Ah ouais, bah, je pense que c'est un peu comme les pommes de terre, non? Enfin, je pense que c'est.
Bon, un petit peu
moins. Ouais, après, je suis pas expert en tout, mais ouais, en gros, en cétogène strict, non, mais si t'as envie d'en manger quelques-unes, pourquoi pas, ouais.
Alors, après, ce qui est intéressant dans ton livre, bon, alors, il y a un truc qui est bien dans ton livre, je trouve. Bon, déjà, c'est qu'il est agréable à lire.
Hein, trop bien, merci, ouais.
Parce que la preuve, c'est j'ai réussi à le lire sans m'endormir le soir dessus, donc ça, c'est un très bon point. T'as passé le test du non-endormissement du soir. Il y a des grandes. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a les étapes hein, sur les différentes étapes, etc. Donc, t'as divisé ça en étapes. Il y a des petites icônes, etc. On s'y retrouve vraiment très clair. Et je te jure, mais bah, attends, il y a des trucs. Je me suis dit, mais attends, je me suis posé des questions, tu vois. Il y a des trucs parce que, par exemple, un jour, j'étais parti courir un matin à jeun, je fais 22 bornes. Avec du dénivelé, sans rien manger. Bien. Et les gens ils me disent Eh oh, le gars, là, t'as rien bouffé et tout, à part un stick de miel au bout de 17 ou 18 bornes, tu vois. Ils me disent t'as rien mangé et tout, à quoi tu carbures? Je dis à rien. Et en fait, je prends ton bouquin, je regarde ton site, et je dis mais c'est très tôt mon histoire, en fait. Tu vois, c'est là où ça m'a mis le pu. Après, je regarde les plans, je dis mais en fait, mais ça, je le fais, tu vois. Après, j'ai regardé la vitesse de course. Tu vois, quand tu dis vitesse de course, fréquence cardiaque et tout, je dis, mais ça correspond à ce que je fais, tu vois. Donc, ça m'a mis des trucs, tu vois. Et je trouve que les gens, ça permet de réfléchir, en fait. C'est-à-dire que même les gens qui sont pas très céto, tu vois, qui ont vu la version hardcore, là, et tout, je pense qu'ils peuvent apprendre des choses. Et peut-être qu'il y a des trucs, tu vois, on peut dire, ah ouais, mais effectivement, j'en suis peut-être pas si loin que ça de certains apports, etc. Ouais. Et peut-être c'est un clair. Point intéressant. Et donc, je trouve qu'il est très clair là-dessus et tout. Tu vois, moi, je me suis posé la question et tout. Alors après, je me suis quand même posé une question. Et ça, c'est vrai. Et alors, je vais te dire, je me suis dit, bon, écoute, puisque t'en as fait une grande partie, si t'allais jusqu'au bout de ta logique, je me suis dit, si je faisais, je vais prendre le livre d'Olivier, je vais dire, je vais prendre la méthode. Et il me dit, allez, dans les mois qui viennent, je passe au céto. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc qui est un peu problématique. C'est à quel moment commencer? Parce que comme tu dis, il y a une période d'adaptation, il y a une période où les performances baissent, il y a une période où il peut être un peu capoute, etc. Et puis, moi, je vais te dire un truc, c'est que je vais y inclure dans la logique. T'as la famille, t'as les enfants, t'as tous ces trucs-là. Or, je m'étais dit, je vais faire ça pendant les vacances. Puis je dis, attends, juillet, j'ai une course. Après, j'ai ça. Après, j'ai ce truc à préparer. Faut que j'arrive à pédaler. Faut que j'arrive à faire ça. Donc ça va pas. Après, il y a ça. Oui, mais attends, il y a les goûters avec ma fille. Après, il y a ça. Alors, je me suis dit, c'est quand même pas si facile que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a un engagement et tout, mais n'empêche, il y a une période, qui est plus facile qu'une autre, ou faut dire, faut donner quoi, combien de temps faut avant de se dire on va pouvoir remettre un petit peu de être bien, etc. quoi. Combien de temps il faut mettre une croix sur ses courses pour ceux qui font des courses et qui, parce que là tu en leur disant qu'ils vont perdre de l'énergie, etc. tu viens de les perdre en fait. Hein, je veux dire.
Ouais. Alors déjà. Pour toutes les excuses dont tu as parlé, famille, ouais, j'avais parlé au début du podcast, là, qu'on vit en société, et du coup, ça peut pas être pas évident et tout. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Après, je pense que aussi, on a un petit vice qui est de se trouver plein d'excuses pour pas changer. Mmh. Et moi, j'explique dans le livre et tout que c'est clair qu'on a une vie de famille, c'est clair qu'on a des enfants, que au boulot, on va être invité au resto, etc. Et du coup, ça peut complexifier les choses par rapport à quand on vit dans une grotte. Et mais par contre, si on met en place une certaine logique, des certaines habitudes et tout, qu'on anticipe un peu ses repas, ça peut être largement faisable. Ouais. Et donc ça, c'est un premier point sur le fait de, on se trouve des excuses pour rien changer, mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut essayer de sauter le pas, pourquoi pas, si on a envie de le faire, si on est motivé. La deuxième chose qui est hyper importante. Il a une super question que tu me posais, c'est quand commencer. Et en fait, tu as répondu à moitié à la question parce que tu parlais de tes objectifs sportifs perso et tu disais, bah, moi, je ne peux pas commencer trop proche de tel objectif ou tel objectif. Et en fait, je suis hyper, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais être hyper clair là-dessus que, comme je te disais au début du podcast, ça ne sert à rien de commencer le cétogène, genre à un mois de son Ironman et se dire. Ok, j'ai un mois, ça va le faire. Non, en fait, en un mois, ton organisme, il n'a pas le temps de devenir parfaitement céto-adapté et ton Ironman, ça va être une catastrophe. Mmh. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps de céto-adaptation, le consensus scientifique, c'est que ça met à peu près 2 semaines. Ça met à peu près 2 semaines pour que l'organisme, il passe d'un mode brûleur de glucides à un mode brûleur de gras. Mais sauf que ça, c'est pour les personnes sédentaires qui veulent juste faire le cétogène pour perdre du poids et être un peu plus en forme dans leur vie de tous les jours. Par contre, il n'y avait pas forcément d'études ou de gens qui ont parlé ça d'un point de vue strictement de la performance sportive. Et du coup, je suis un des premiers à l'avoir expliqué. Mais d'un point de vue de la performance sportive, il faut plutôt compter ça en mois. Donc ça peut être 2, 3, 4, 5 mois. Enfin, là, en fait, je te parle de 5 mois, j'imagine que tu m'écoutes et tes auditeurs m'écoutent et me disent oh, mais 5 mois c'est hyper long, comment je vais faire pour est-ce que je peux ne plus faire de sport pendant 5 mois? Non, c'est pas du tout ça, il faut bien comprendre ça comme une phase de transition progressive où même au bout de 2 semaines tu vas pouvoir courir et tout, et c'est juste que pendant 5 mois et ben, ta courbe de forme et ben, elle va augmenter progressivement, et là je te dis 5 mois mais ça peut, tu peux même avoir ça à plus long terme, genre 1 an, 2 ans ou où moi, je suis constaté que 2 ans après mon début de cétogène, j'étais plus en forme que 1 an après. Enfin, tu vois, ça monte progressivement et c'est assez fascinant parce que tu, au bout de 2 mois, tu as des sensations qui sont hyper bonnes, mais tu te dis, bah, en fait, au bout de 6 mois, c'est mieux, mais j'ai trop envie de savoir comment ça va être au bout d'un an et tout. Et du coup, pour répondre à ta question, parce que je sais pas si j'ai vraiment répondu, quand commencer le régime cétogène, bah, moi, je trouve que la meilleure période pour commencer les régimes cétogènes. Alors, je parle du point de vue des sportifs et des sportives qui font des courses un petit peu classiques, genre qui commencent globalement au printemps. Mmh. Tu vois, si on fait de la course à pied ou des triathlons, j'ai l'impression que les calendriers sont faits pour qu'il y ait quelques courses l'hiver, mais globalement, c'est pour préparer les premiers marathons, genre Paris, les premiers trails qui sont genre en avril et tout. Si t'as un calendrier qui est celui-ci, et ben moi, je te conseillerais de commencer le cétogène genre à l'automne, en considérant, enfin tu vois, si tes derniers objectifs de l'année c'est genre été ou septembre, et ben tu commences le cétogène après tes derniers objectifs, genre en septembre-octobre. Mmh. Et en fait, ça te laisse genre 6 mois d'adaptation pour faire genre 2 mois sans compétition, parce que de toute façon, ça correspond globalement à la coupure annuelle. Je sais pas, novembre-décembre, où là, t'as plus forcément d'objectif, ton sport, c'est plutôt d'entretien, t'as pas de cours de prévu et tout. En, on va dire, janvier, février, là, ça fait genre 2-3 mois que t'es en cétogène, tu peux avoir les premières courses de préparation, genre les corridas, tout ça, enfin, des courses un peu de course à pied des 10 km, où tu te dis bah, je le fais sans avoir trop d'objectifs, je vais pas battre mon record, c'est juste pour me tester un petit peu. Par contre, arrivé en avril, mai, juin, où là t'as vraiment tes gros objectifs, tes trails, tes triathlons et tout, là tu rentres vraiment dans le dur de ta saison, là ça fait 6-8 mois que t'es en cétogène, du coup là tu commences à être vraiment adapté. Donc voilà, le conseil que j'ai, c'est d'éloigner le plus possible de ces objectifs principaux. C'est pour ça que dans mon livre, j'explique que c'est hyper important de se faire un vrai rétro-planning à l'année où t'imprimes un calendrier annuel, tu mets tes objectifs en disant bah, j'ai deux objectifs principaux dans l'année, j'ai un ultra-trail et un triathlon qui est pendant l'été. J'ai des objectifs intermédiaires de préparation où là, l'objectif, c'est pas de battre mon record, mais eux, ils sont plus à partir de février, on va dire. Et à partir de ça, tu construis un rétro-planning en disant bah, il faut que je commence dans l'idéal 6 mois avant. 8 mois avant, je sais pas. Et en fonction de tes vacances, ta vie de famille et tout, tu te dis, je vais commencer en octobre parce que je pense que j'ai pas d'objectif sportif. J'accepte d'être un peu moins en forme pendant un mois, de pas faire de fractionné et tout. Et je sais que ma forme va revenir au printemps. En gros, ça marche comme ça.
Ouais. Alors, alors je le dis parce que j'ai pas dit les trois parties du livre quand même, mais les grandes parties, c'est qu'il y a le grand pratique, la cétoadaptation, donc l'adaptation. Ensuite, l'entraînement en mode cétogène, et puis la compétition en mode cétogène. Bon, comme ça, on a les grands trucs. Et puis après, il y a 25 recettes de cuisine, hein, sur recettes cétogènes pour l'effort. Alors, moi, j'ai regardé les recettes quand même, et je dois te dire un truc, c'est que si tu me fais commencer le céto en octobre, 3 mois plus tard, il y a Noël.
Ouais.
Et ben là, j'ai pas vu la bûche de Noël cétogène, moi. Franchement, les petits chocolats, les papillotes, etc.
Ah, ben il y a des. Alors.
Comment on fait pour passer Noël, tu vois? Parce que alors là, je veux bien, mais bon, moi je suis gourmand, tu vois. Alors là, il faut trouver un truc. Hein.
Ouais, c'est clair. Alors, bah déjà, comme je te disais, pour le plat, c'est hyper facile en cétogène. Si tu considères que t'as une petite. T'as pas de féculents, mais tu t'en fiches, t'as genre une purée de. Potiron, je sais pas, avec une dinde ou je ne sais quelle source de protéines. Donc ça, pour Noël, ça passe bien. T'as les fromages en apéro, ça passe bien. Le dessert, bah alors, il faut pas commencer le cétogène. En fait, t'as des alternatives de tout et n'importe quoi sucré en mode cétogène. T'as des recettes de bûche. Il faut aller voir le blog de Monsieur Keto, qui est un peu une figure dans les recettes un peu food porn en mode cétogène, pardon pour le gros mot, qui a une recette de bûche dans ses livres, il me semble. Par contre, si tu fais tous les desserts cétogènes, genre tiramisu, mousse au chocolat, gâteau au chocolat, bûche de Noël, avec en tête le goût de la même recette en mode sucré, et que tu veux avoir exactement le même goût en mode cétogène, tu vas être déçu parce que forcément ça n'a pas le même goût. Le chocolat il est plus fort, t'as quand même moins de goût sucré, les farines c'est pas les mêmes. Du coup, faut vraiment sortir de la tête qu'on va avoir l'alternative exacte. Par contre, tu peux, comme je te disais, faire des alternatives cétogènes à la bûche, ou alors tu peux te dire, je laisse la bûche pour les gens qui mangent de la bûche. Par contre, moi, je vais faire un tiramisu cétogène. Ça, c'est assez facile à faire et c'est hyper bon. Ou je vais faire un deuxième dessert qui est cétogène, qui est un petit peu moins sucré. Mais voilà, moi, je trouve intéressant, quand je vais manger chez des gens, je leur demande si je peux apporter le dessert. Et en fait, tu vois, je fais deux desserts. Je fais un dessert sucré et un dessert cétogène. Et comme ça, je sais que les gens qui mangent le dessert sucré, ils seront contents. Parce que si tu leur donnes que dessert cétogène qui est moins sucré, quand t'as le palais qui est habitué au sucre, comme tu expliquais il y a quelques minutes, et forcément, ça va te paraître un peu âpre au goût, tu vois. Mais il y a des alternatives faciles. Tu peux faire des desserts avec du chocolat, genre des mendiants, ou avec du chocolat un peu fondu, où tu mets des graines, des noix, des amandes dessus. Ça peut être hyper bon avec un petit peu de fleurs de sel. Donc, non, tu vas pouvoir passer Noël facilement. Et une petite astuce perso pour pas arriver au moment du dessert à dire waouh, j'ai hyper faim, il y a une bûche magnifique et tout, c'est de quand même bien manger au salé. À la limite, essayer de bien se caler au salé, et comme ça, quand t'arrives au dessert, t'as pas ultra faim. Et ça, c'est le jour de Noël, mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est que si t'es invité à prendre le goûter avec des potes dans un salon de thé, et que t'arrives affamé à 16h, forcément, quand on va te proposer la carte des tartes et tout, tu vas en commander parce que t'as ultra faim. Par contre, si t'arrives en ayant bien mangé, en ayant un niveau de satiété qui soit assez haut, parce que tu t'es bien nourri pendant le repas, ça tu peux être dans ton salon de thé et puis pas moins avoir mangé de sucré. Ça, le vrai conseil que je donne à tout le monde, c'est de bien manger pendant les repas. Et qu'en fait, moi le premier, hein, les fois où je cède à la tentation et que je mange des choses qu'il faut pas forcément manger, c'est clairement parce que j'étais affamé, je passe devant un truc trop tentant et là, ton cerveau il te dit de manger. Du coup, voilà, bien manger pour arriver à satiété et ça aide quand même.
Et tu sais d'ailleurs que dans l'histoire des gens qui me posent la question sur le sucre, en disant oui, j'ai des compulsions sucrées, j'ai envie de manger du sucre, etc. Et justement, j'en parle de la satiété, des différents facteurs qui peuvent jouer. Et il y a un facteur qui plaide pour toi, en fait, pour ce que tu racontes dans le cétogène et pour les plats. C'est parce qu'il y a deux éléments. Bon, la satiété avec les fruits, avec les légumes, on y arrive quand même beaucoup parce que ça fait quand même du remplissage. Mais les protéines, les protéines font partie aussi des éléments qui, justement,
évitent
la faim, permettent la satiété, etc. Et évitent ces compulsions sucrées quand tu arrives 4 heures et que tu passes devant une boulangerie, un salon de thé ou je ne sais pas quoi. Donc, ça plaide aussi parce que finalement, le plat que tu disais, à un moment donné, j'ai vu, tu as une page là où tu parles de me faire brocoli, œufs et fromage ou je ne sais pas quoi comme assiette. Et tu calcules les trucs. Finalement, alors bien sûr, faut pas manger un brocoli, quoi. Faut manger suffisamment de brocoli pour que ça fasse le truc. Mais je veux dire que ça plaide aussi pour ceux qui ont des trucs, pas que dans le sport. Je veux dire que globalement, ces envies de sucre, etc. Faut pas oublier non plus de l'intérêt de ça. Et après, je dis hein, dans les recettes pour ceux qui se posent des questions quand même. Alors pour les Bretons qui nous écoutent, c'est-à-dire à peu près 90% des gens qui écoutent le podcast sont Bretons d'une manière ou d'une autre, hein, tu sais.
C'est vrai.
C'est une blague que je raconte comme ça.
C'est avec les drapeaux.
J'ai l'impression qu'à chaque fois je me prends des commentaires de Bretons. Mais ça c'est le côté Breton à Pyrénées, etc. Il y a des crêpes cétogènes. Et alors quand j'ai regardé la recette de crêpes cétogènes, j'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit mais c'est ma recette de pancake avec du psyllium dedans et tout. Je dis mais je la fais déjà en fait. Farine d'amande. Alors moi je mets pas forcément la farine d'amande, mais j'ai mis de la farine d'amande et effectivement je confirme. J'ai fait aussi avec la farine type alors châtaigne, je sais pas si ça marcherait au niveau des glucides, mais il y a d'autres variations. On a parlé tout à l'heure du lupin, par exemple,
farine de coco,
etc. Ça peut marcher. Donc je me suis dit mais cette recette là, mais je fais quasiment la même pour mes pancakes, donc tu vois
bien.
Ça marche. Les energy balls, on en a parlé tout à l'heure en fait en disant les mendiants, etc. Bon, les energy balls, je me suis rendu compte que finalement c'était cétocompatible. Alors que moi
il faut pas mettre un sucrant parce que souvent les energy balls elles sont comment dire, il y a un sucrant qui aide à la texture et qui fait que ça se tient bien et souvent c'est genre du sirop d'agave, du miel et tout, tu vois. Mais les energy balls avec une base de purée d'oléagineux, des graines dedans et tout, ça marche plutôt bien. Après, faut quand même faire un peu attention. Je pense que je l'ai mis en avertissement, mais dans un sac de trail qui va être ballotté pendant 5 heures, faut mettre dans un récipient un peu étanche et tout, tu vois, parce que ça peut se casser et tout, mais ouais, ça peut carrément marcher, ouais.
Ouais. Bon, moi, mes energy balls, j'ai fait la purée cacahuète, mais bon, après, c'est là, tu mets purée d'amande. Bon, après, ça, chacun son truc, hein. Moi, je suis team cacahuète. Alors, je dis quand même, pour ceux qui ne savent pas, mais ton hachis parmentier, quand même, c'est du chou-fleur dedans. Hein.
Mais
ce qui montre qu'en fait, on peut adapter des plats qui sont traditionnels en apparence comme ça, mais les adapter, je veux dire, en changeant des ingrédients. Moi, je donne souvent l'exemple de la moussaka aussi, ou des lasagnes qu'on peut très bien transformer en trucs beaucoup plus équilibrés que ce qu'on achète dans le commerce. Ultra transformé où il n'y a que des pâtes et où il n'y a pas de viande et de légumes. Et je trouve que ton exemple du hachis parmentier où finalement tu mets du chou-fleur dedans, c'est un très bon exemple aussi de montrer que finalement on peut avoir des plats qui ressemblent, qui ont l'esprit, mais qui finalement sont adaptés. Quoi.
T'as plein d'alternatives. Genre, tu parles de. Le chou-fleur, c'est un peu un légume phare en cétogène parce que ça permet de faire genre des purées. Même du risotto, enfin du risotto de chou-fleur, j'allais essayer de trouver le nom. Chou-fleurito, je sais pas comment on peut appeler ça.
Chou-fleurito.
Et t'as plein d'alternatives, genre même les spaghettis de légumes, où tu vois, tu peux faire des spaghettis de courgettes ou même des lasagnes de courgettes coupées en lamelles à la place des pâtes. Donc carrément, en termes d'alternatives, tu peux faire quasiment les mêmes plats, les pâtes en moins. Et dans la vie sociale, quand t'es en famille, tu peux parfaitement te faire genre ta sauce pour les pâtes et tu manges le même plat que ta famille, sauf que eux mangent avec des pâtes de blé classiques et toi tu vas remplacer les pâtes par des spaghettis de courgettes. En fait tu partages un repas en famille, voilà.
Et alors t'as une recette de barre énergétique sans céréales à la fin. Moi c'est un dessert chez moi.
Ah ouais.
Mais j'ai une recette qui ressemble un petit peu à ça avec Et c'est vrai, et franchement, je le dis, mais quand je regarde le truc, je dis, mais en fait, ça ressemble exactement à ce que je mange, etc. Et en fait, c'est, nous, à la maison, c'est un dessert. Voilà, donc je le dis. Donc, c'est pour rassurer les gens aussi, c'est-à-dire que ceux qui voudraient tester, il y a des. On peut manger, moi je le dis toujours, c'est manger sain, c'est pas manger triste, hein, on peut manger gourmand tout en mangeant sain, etc. Et là, tu as la preuve qu'en fait, on peut manger cétogène sans se priver. Bon, les rillettes de porc faciles, pour ceux qui se posent la question d'ailleurs, t'as des rillettes de porc dedans. bon, salade tomate mozza, oui. Et en fait, facile. Je te jure qu'il y a la plupart de ce que je mange, c'est dingue en fait. Donc en fait, je suis. C'est assez simple en fait.
Bah, bien sûr que c'est simple. Et c'est simple, ça peut être varié, goûteux, goûtu, je sais pas. Et tu parlais de. Ouais, en fait, en nutrition du sport, il y a un mythe qui est. Je pense qu'elle fait beaucoup de dégâts, en nutrition du sport et en régime perte de poids en général aussi, hein, c'est que manger sain, c'est manger triste. Et pour manger quand tu fais du sport, de la muscu ou quoi, il faut manger tous les repas identiques, genre riz d'Inde, haricots verts. Et tu vas t'ennuyer dans l'assiette et tu vas manger tout le temps les mêmes repas, ça va être sans saveur parce que. Si c'est savoureux, ça veut dire que c'est trop gras et que du coup c'est pas bon pour la santé. Et en fait, faut vraiment arrêter avec cette idée que quand tu commences à vouloir bien manger, et ben il faut que tu te fasses moins plaisir dans l'assiette. Non, il y a, comme tu l'as dit, il y a moyen de se faire hyper plaisir avec des aliments sains. Et ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
Ouais. Ouais, donc il y a même une pizza cétogène qui a l'air très bonne.
Je t'en ai parlé. Ouais. Donc, bon, un peu galère à faire au début la pâte, mais ouais.
Ouais, c'est ça, c'est les textures de pâtes qui fois qui sont pas faciles, les gâteaux aussi où tu cherches un peu de changer les farines sont toujours un peu compliqués parce que en plus il faut le dire hein, c'est que la plupart du temps c'est qu'on enlève enfin il y a plus de gluten quoi puisqu'on prend les farines où on enlève justement le truc et donc le gluten c'est quand même bien pratique pour faire des gâteaux, des pâtes, de l'élasticité, etc. Alors là d'un coup
c'est clair.
Amandes, lupins, lin au coco. Donc, je pense que le client de ta pâte doit pas être facile à faire. Hein. Ça, c'est sûr que là.
Alors pour la pâte, pour la pizza cétogène, qui est aussi sur mon site internet, si les gens veulent aller voir, c'est en fait c'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est une base de fromage fondu qui mélangé avec un œuf et de la farine alternative va permettre de faire un pâton de pâte que tu vas pouvoir bien étaler. Ça fait penser à la. Ouais. Pizza, la pâte au fromage de Pizza Hut, mais c'est pas du tout ça, mais mais oui, en fait c'est des petites pirouettes pour trouver un lien parce que comme tu le dis, dans la pâtisserie ou dans les recettes un peu françaises, clairement les céréales c'est un intérêt, c'est que le gluten c'est un truc qui donne de l'électricité, qui donne de la tenue aux recettes, du coup faut être un peu créatif pour compenser avec autre chose.
Et bon, allez, on va finir quand même pour ceux qui se posent la question de l'hiver. La poireau tiflette m'a trop fait rigoler quand t'as mis.
Non, la poireau flette, ouais.
Poireau tiflette. Non, poireau tiflette.
Ah ouais, ok, bon, on peut dire les deux, ouais.
Poireau tiflette. Ouais. Reblochon, oignon, 4 poireaux et crème épaisse, lardon. Alors là, tu dis ça à quelqu'un en disant, écoute, aujourd'hui, je mange céto, je mange ça. Il va te dire, attends, reblochon, oignon, crème épaisse. Lardon.
Bah, ça fait rêver, non?
Ça fait rêver. Mais c'est vrai que la petite astuce, c'est vrai qu'avec les poireaux et pas les pommes de terre, et ça doit vachement plus facile à digérer en plus, je pense. Tu dois être moins
pas mal. Ouais, c'est clair. Enfin, j'allais dire, c'est plus léger. Bon, t'as quand même de la crème et du fromage. Oui. Du coup, c'est vraiment un plat d'hiver pour rentrer du ski, quoi. Mais, ou ça, c'est sans de trail ou de ski de fond. Mais ouais, carrément. C'est carrément, ça, c'est un de mes plats favoris l'hiver. Ou si j'avais un plat à choisir pour 3 mois dans l'année, je prendrais la poireauflette l'hiver et la salade tomate mozza l'été. Ouais.
Eh ben écoute, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, moi je l'ai. Alors franchement, et c'est vrai que je l'avais dit, alors je vais te dire, le gars quand il m'a remonté ta vidéo du marathon de Paris là et tout, le gars il mange rien, il court en tong et tout, et j'ai dit il faudrait connaître son passé sportif, son niveau d'entraînement, son âge, etc. Enfin voilà, parce que attention, parce que c'est vrai que par l'exemple de ce qu'on voit, de ce que tu fais et tout, tu l'as dit, ça fait combien d'années que tu cours?
Ça fait 8 ans je pense. Et 6-7 ans de cétogène, ouais. Donc parenthèse, mais oui, comme tu l'as dit, et je veux vraiment dire ça aux gens. Que moi j'ai fait le marathon de Paris sans alimentation, enfin sans aucune calorie, Par contre, ça veut pas dire que votre marathon, que là on est lundi, votre marathon que vous allez faire dimanche, du jour au lendemain sans expérience, il faut surtout pas le faire sans calories. Moi, j'ai dit ça parce que c'est mon expérience personnelle, j'ai le passé, je savais à quoi m'attendre parce que je connais mon corps et tout. Par contre, ne faites pas ça du jour au lendemain. Renseignez-vous bien et parce que si vous faites un marathon à jeun sans expérience et tout, bah ça va très très mal se passer. Donc voilà, tu fais bien de le rappeler. Ouais.
Très très mal se passer. Même les Kenyans, ils ont essayé, ils n'y arrivent pas en fait.
Tu sais, ça dépend. Il y a des ça existe plus parce que maintenant les Kenyans, leur but c'est de faire de la promotion de gel énergétique. D'une marque connue qui commence par un M. Ouais. Mais donc ils ont plus trop le droit de le faire à jeun et tout, mais en fait, c'était beaucoup plus répandu il y a genre 30 ans où globalement les Kenyans ils couraient en chaussures minimalistes parce qu'il y avait que ça et ils couraient. Il y en a beaucoup qui couraient à jeun, voire. Alors ça c'est un autre sujet, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais voire sans quasiment boire. Mm. Et en fait, ils montraient que un taux de déshydratation qui dépassait pas un certain seuil, ben c'était acceptable pour la performance sportive, même si c'est pas ce qu'on dit actuellement, qu'il faut se déshydrater et tout. Donc bon, l'hydratation c'est un autre sujet, je vais pas rentrer dans ce truc là, mais oui, c'était beaucoup plus ça existait beaucoup plus à l'époque, il y a 30 ans, les marathons sans trop d'alimentation. Et c'est marrant de voir que maintenant on a besoin de s'alimenter tous les 2,5 ou 5 km selon les marathons. Et en fait tu dis en tant qu'humain qui courions pour aller chasser notre nourriture, si on avait besoin d'un ravito tous les 5 km pour pas mourir de faim, on aurait été mal en point, quoi.
C'est là où on rentre dans des grands débats, en fait, parce que c'est vrai que l'histoire des marathons, l'autre jour on parlait des Atopec, etc., où donc les conditions d'entraînement étaient totalement différentes, où l'alimentation était différente.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai qu'il n'y avait pas de ravitaillement. Enfin, tu regardes les Mimoun et compagnie sur les récits. Ah, alors, ouais. Mis à part qu'ils étaient obligés d'avoir de l'eau parce qu'il faisait 40 degrés, en Australie tout fondait, et que sinon ils n'avaient pas de trucs. Tu lis aussi des statistiques où ils montrent que y a des coureurs de marathon qui avaient une température de plus de 40 degrés quand ils arrivaient à la fin de la course parce qu'ils sont en surchauffe. Et oui, mais parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'hydratation et que la récupération et tout se faisait différemment. C'est vrai que j'avais été très marqué par le documentaire, tu sais, sur le. Ils ont montré la première tentative de Kipchoge pour passer sous les 2 heures, où il y avait le champion du monde du semi-marathon qui n'arrive pas à courir un marathon parce que courir une heure.
Il peut manger
sans ravitaillement, c'est easy pour lui, il peut courir à 21 km/h, mais faire ça pendant 2 heures,
il n'avait pas appris à manger,
il n'y arrive pas, tu vois. Mais ce qui montre aussi qu'il y avait des stratégies et tout. Et après, voilà, ils ont aussi des niveaux de performance, il y a des niveaux de performance qui évoluent, etc. Je pense que chacun a son niveau. Et donc, c'est des débats qui sont un peu sans fin. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est de se dire, si on est tenté de tester le truc, en tout cas, c'est bien d'avoir une base. Et je trouve que ton livre, en fait, il a une base qui est intéressante parce que il y a une méthode, les produits, la liste des produits qu'on peut consommer, etc. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés par le truc, allez-y. Moi, je le dis parce que j'étais vraiment surpris. Franchement, je te jure, j'ai regardé les trucs. J'ai juste une question que je me suis posée et ce sera ma dernière question. C'était c'est pas à peine que je mesure. Comment tu mesures finalement quand t'es en cétose, en fait? T'as des capteurs, t'as des trucs comme ça, ou comment ça marche?
Alors en fait, il y a plusieurs façons. T'as des capteurs qui, c'est comme des capteurs de glycémie, sauf que en parallèle ça mesure également la cétonémie, donc qui est la concentration des corps cétoniques dans ton sang. Et en fait, si t'es au-dessus d'une certaine valeur, ça prouve factuellement que tu es bien, que ton corps produit des cétones, des corps cétoniques, et qu'il les utilise pour puiser son énergie. Après, t'as un autre truc, c'est les bandelettes urinaires. Ça mesure la concentration de corps cétoniques, mais dans ton urine, ça c'est moins fiable parce qu'en fait, ton corps, il peut produire des corps cétoniques, mais avant de vraiment les utiliser comme source d'énergie, il peut directement les vider dans ton urine. D'ailleurs, tous les gens au réveil auront une production de cétone qui est un peu élevée parce que toute la nuit, l'organisme, vu qu'on n'a pas mangé, vu qu'on se lève pas pour manger pendant la nuit normalement, si on est normaux, on a déjà passé, sans être en régime stratégique, on a déjà passé 8-10 heures sans manger. Et donc ça, c'est les deux moyens de mesurer si on aime bien les chiffres, si on aime bien le repère. Par contre, moi je dis que un bon moyen, c'est s'apercevoir que on est capable de faire du sport à jeun sans ayant faim, on se sent bien au quotidien en mangeant des repas pauvres en glucides et sans avoir de fringales et tout. Et en fait, moi, je conseille de pas forcément trop se baser sur des chiffres et tout, mais les sensations, c'est le plus important. Donc, quelle que soit son alimentation, si on est en cétogène et qu'on se sent bien et tout, bah, en fait, ça veut dire que son corps produit des corps cétoniques et les utilise comme source d'énergie. Ça, c'est le plus simple et le plus naturel, quoi, je trouve.
Ok, bon écoute, pour ceux qui voudraient aller plus loin, moi de toute façon il y a plein de trucs dans lesquels je me reconnais et tout, le coureur à jeun, etc.
Mais trop bien.
Ouais. Vraiment, je me dis, j'ai dû à un moment donné être pas très loin en fait de ce que t'as marqué, de ce qui est dans le
ouais,
bouquin,
ouais,
donc,
ouais.
Tu vois. Donc je suis content en fait de voir que finalement c'est pas si compliqué que ça en fait, déjà, tu vois. Donc je te remercie déjà de m'avoir fait changer d'avis. Hein,
bah, avec grand plaisir.
Je suis une vraie tête de mule, tu vois. Alors je suis une grosse tête de mule. Bon, tu me feras pas abandonner mon miel. Hein. Ça, il y a des trucs, tu vois,
ouais,
c'est un peu compliqué.
Je t'en veux pas.
C'est comme j'ai quelqu'un, on a des amis qui disaient, bah, moi je deviendrais bien végétarien, mais j'aime trop le foie gras à Noël pour devenir végétarien.
Bon.
Ouais, tu vois, il y a des trucs, il y a deux, trois
c'est autre chose,
trucs.
Ouais.
Je me dis, ah, ça résiste un petit peu quand même, etc. Mais c'est vrai qu'après, globalement, et tu l'as dit, hein, le low carb déjà étant une étape intéressante.
Ouais,
je rappelle, on avait fait l'épisode
avec
Fabrice Kuhn, on en avait parlé, ouais. On a parlé aussi de ses entraînements, des stratégies entre le low carb, etc. Où il y a plein de stratégies où déjà je prouve qu'il y a des échelles, etc. Et ça se complète bien,
carrément.
En fait, l'approche. Et c'est son livre de recettes et ton livre à toi se complètent bien.
Ouais.
Pour ceux qui veulent te suivre, tu vas juste nous rappeler où est-ce qu'on peut. Alors, le bouquin, bien sûr, je mettrai la référence dans les notes de l'épisode. Performer
ah, trop cool,
en
ouais.
mode cétogène. Comment finir avec les hypoglycémies, accéder à l'énergie infinie. Pff, putain, j'ai dit là.
Ça rend du rêve. Ouais.
Sur le plan marketing, ça tape fort. Hein, ça.
Ouais, bah, c'est une formule que j'aime bien. Bah, elle est un peu à prendre avec des pincettes, mais. Ouais.
Et par contre, on te retrouve où alors rappelle-nous, Instagram.
Ben Instagram, Facebook, YouTube, Strava. Bon, ça va, on s'en fiche un peu, mais c'est Low Carb Frenchy. Et mon site internet, c'est lowcarbfrenchy.com. Donc, normalement, vous me trouvez un peu partout avec ces pseudos, ouais.
Moi, je mets tous les liens dans les épisodes. De toute façon, comme ça, les gens pourront te retrouver. Je vais continuer les petites expérimentations. Hein, parce que finalement,
bah,
je me dis
ouais,
que
si
je prenais 2-3 recettes, si ça se trouve, en poussant un petit peu la logique jusqu'au bout. Et peut-être, non, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai tendance à manger beaucoup de sucre en ce moment, jeudi, et je me rends compte aussi, c'est que plus je mange de sucre, plus j'ai envie d'en manger. Mais j'ai un taux de masse grasse qui est tellement faible tout de suite que d'un côté, ça m'inquiète pas des masses et que je me dis, bon, écoute, c'est comme ça. Je t'ai pas posé la question sur comment tu fais quand tu croises une boulangerie sur ton vélo, mais tu sais ce qu'on va faire? Ça, je me le réserve pour un épisode de Kilomètre 350. Je t'inviterai dans Kilomètre 350 pour parler des aventures vélo.
Avec
et je te demanderai comment tu te ravitailles en cette eau sur ton
et
vélo.
Ben avec
parce
grand
que
plaisir,
moi,
si
la pause boulangerie, j'ai un peu de mal à le faire. Donc tout à l'heure, on prendra rendez-vous pour faire la suite. Écoute, en tout cas, Olivier, merci beaucoup pour le temps passé et puis d'avoir pris le temps. Tu vois, on a fait un peu plus
et
long
avec
que ce qu'on fait d'habitude.
Toi.
Mais je pense que c'était vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Moi, je te dis, hein, quand ils ont vu ta vidéo, certains m'ont dit « Comment il a fait, le gars, et tout, c'est pas possible. » et tout. Moi, j'ai regardé les comptes, j'ai dit « Mais attends, c'est qui le gars, là, le Mariol, qui nous fait ça et tout ?» Puis je dis « En plus, il prépare un bouquin, donc c'est pour faire mousser un peu le truc. » Mais c'est vrai que déjà, après, j'ai dit « Tiens, c'est chez Soukar. » Donc, déjà, ça doit être un peu sérieux, l'histoire. Et puis après, quand j'ai eu le bouquin, tu m'as mis le doute. Et à tel point que je vais pousser un petit peu le doute, tu vois, un petit peu les curseurs un peu plus loin.
Ouais.
Regarder un petit peu ce que je fais aussi. Et que tu vois, à une époque, je me suis dit, si j'avais eu ton bouquin il y a 2-3 ans, eh ben, je me demande si j'aurais pas fait un système, tu sais, pour mesurer. C'est pour ça que je te parlais de savoir comment on peut mesurer, etc. Parce que je pense que j'en étais. Il y a plein de trucs que tu racontes où je pense que j'en étais pas très loin. Donc, au moins, tu vois, tu m'as fait prendre conscience de ça.
Bien.
Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle continuation. Tu as des projets sportifs, des trucs comme ça? Tu veux faire quoi
Ouais, bien sûr. Bah, UT4M, Ultra Trail des. Ultra Tour des 4 massifs, 170 km à Grenoble. J'ai hyper peur, mais c'est dans 16 jours du coup. Sur 170 km, bah oui, je vais manger. oui. Bon, après, en trail, je me fais pas trop de soucis parce que je sais qu'il y a beaucoup de ravitaux salés, fromage et tout, du coup, ça va être cool.
Ouais. Eh ben écoute, on va suivre ça avec. Alors le jour où on va diffuser l'épisode, je pense qu'on sera juste à la même période parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où on enregistre et le moment où on diffuse.
Ouais.
Tu seras pile pas très loin du moment où ça va être la course. Donc je te souhaite une belle course.
Faut vite aller me suivre sur Insta. Ouais.
De profiter.
Merci beaucoup à toi, Bertrand.
Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode et puis nous, écoutez, on se retrouve Dans 15 jours pour un nouvel épisode, je sais pas de quel sujet du tout on va parler, je sais pas si on va je sais pas, j'ai pas l'invité en fait. Non, pour l'instant, je peux pas le dire, mais en tout cas, on va continuer à explorer ces thématiques, de découvrir des sujets, des pratiques diverses et variées. Je sais que ça pose beaucoup de questions des fois, il y a des sujets comme ça, mais c'est bien d'aller dans le fond. Et puis on se rend compte que ta démarche, il y a des démarches qui sont intéressantes parce que il y a des trucs qu'on peut faire plein de ponts sur avec des anciens épisodes qu'on a pu faire, et comme ça on construit
bien sûr
un maillage entre les épisodes, et comme ça on progresse beaucoup. Merci Olivier.
Merci Bertrand, salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.